Vous aimez partir au bout du monde. Vous aimez aller à la recherche de trésors. Vous aimez traverser des forêts touffues. Vous aimez traverser des déserts arides. Vous êtes titulaire d'un BEP tourisme option vente. Alors vous aimerez ce numéro de Parlons Vélo chez Kiss. Compris dans Parlons Péloche 80s, aujourd'hui il sera question des films d'aventure. Le film d'aventure est un genre cinématographique caractérisé par la présence d'un héros fictif ou non, tirant son statut du mythe qui l'inspire. L'action particulière qui s'y déroule, l'emploi de décors particuliers également, le tout véhiculant une idée générale de dépaysement. Dans les années 80, le film d'aventure s'est encore un peu plus affirmé au travers de ses héros, en voyant notamment naître le personnage d'Indiana Jones, mais aussi le personnage d'Indiana Jones en passant également par Indiana Jones. Mais ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. De l'autre côté, moi, j'ai cherché...
Je suis assez orienté, Wikipédia.
Un petit peu. De l'autre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir ce que nous attendons d'un film d'aventure sorti dans les années 80. Nous nous demanderons également ce qu'était ce genre dans les années 80 en donnant nos impressions sur trois films d'aventure majeurs sortis sur cette période. Et c'est après avoir parlé de nos films d'aventure 80s de référence que, bah, on va dire que si vous aimez l'aventure, vous aimez Fort Boyard, bah, Antoine vous proposera Poop, un truc qui ressemble aux énigmes du vieux dégueulasse. Enfin, la chronique s'appelle le pilule bleu, pilule rouge. Mais pour parler des films d'aventure des années 80 autour de la table, vous le connaissez sûrement, car il a réalisé un film mash-up entre La Momie et Momie de Xavier Dolan, l'histoire d'un jeune adolescent perturbé qui revient 4000 ans après sa mort pour faire flipper tout le monde, mais il y a Brandon Fraser qui lui met une crampe. C'est Fouad, bonsoir Fouad.
Salut Thomas.
Très joli film, très joli projet Fouad.
Je bosse, ça promet.
Vous la connaissez sûrement, car c'est un petit peu notre petite Lara Croft de l'équipe. C'est David, bonsoir David.
Thomas, je m'y attendais pas.
Béa, moi non plus, je t'ai préparé à montrer mes seins et pas du
vous
tout.
Vous avez pas eu le visage de Béa. Vous la connaissez sûrement, car c'est elle qui était cachée sous les traits de la sauvageonne dans Fort Boyard. C'est Béa, bonsoir Béa.
Bonsoir Thomas.
Vous le connaissez sûrement, car il sera le héros du prochain épisode d'Indiana Jones, intitulé Indiana Jones et le rire perdu. C'est Antoine, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Et enfin, vous le connaissez sûrement, car quant à lui, il fut le héros du premier épisode d'Indiana Jones, puisque la scène du rocher dans l'Arche perdue est une référence directe à son monotesticule. C'est Tristan, bonsoir Tristan.
Bonsoir Thomas, merci. Merci beaucoup.
Eh bien, maintenant que j'ai fait un tour de table, allons nous perdre dans les méandres des films d'aventure des années 80 avec la première séquence de l'émission, le tas de beaux yeux, tu sais. Dans le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce qu'était le film d'aventure dans les années 80 à travers les yeux de nos chroniqueurs pour savoir quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à mater un film d'aventure datant de cette période. Je l'ai dit dans l'introduction, le film d'aventure se base sur deux éléments principaux, à savoir un héros fort et une notion de dépaysement. Mais pour vous, autour de la table, qu'est-ce qui symbolisait ce genre dans les années 80? Et j'allais vous dire, il y a un setup bizarre, il faut que nos auditeurs le sachent. On est en déconfinement.
Partiel.
Et laisse partiel, voilà. Donc j'ai Fouad et David avec moi dans la même pièce.
Pardon, je me suis trompé. J'ai dit que j'étais avec Fouad et David alors qu'en réalité j'étais avec Fouad et Antoine pendant l'enregistrement. Je ne suis que puanteur et imprécision.
Parce qu'on a pu se mettre chacun à 2 mètres d'écart, mais les autres, bah, j'ai pas un appart assez grand. Du coup, on est divisé en deux équipes de 3. Quelque part, il y a une notion d'exotisme, une notion d'aventure dans ce setup. Donc rien n'est choisi au hasard. Béatrice, tu aimes l'aventure, hein? Sinon, tu te serais jamais engagée à
bien
mes côtés
sûr.
Dans cette aventure qu'est Parlons Péloche. Mais est-ce que tu aimes le film d'aventure des années 80?
Ben oui, parce que le film d'aventure des années 80 au ciné, c'est Spielberg. Et puis, si c'est pas Spielberg, et ben
c'est
l'esprit Spielberg. Donc,
encore un intermittent.
Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a du rythme, des mystères, un peu de fantastique. Un peu tout ce qu'on va avoir ce soir. Et puis, bon, qu'il y a un peu de jungle, c'est bien aussi.
Et j'ai réécouté, moi, l'épisode du film d'aventure qu'on a fait de Parlons Péloche. C'était l'épisode numéro 9. Et c'est dingue à quel point mon talent s'est amélioré depuis ce temps. Non mais c'est trop rigolo d'écouter parce que la forme est déjà pas mal et tout, mais je me dis les gens qui commencent par nos premiers épisodes, on a quand même parcouru du chemin. Je trouve qu'on est un peu plus sympatoche à écouter, et notamment depuis ce temps-là, qui nous a rejoint. Bah Fouad Boudard, Fouad, est-ce que tu aimes les films d'aventure des années 80?
Oui, j'adore ce genre.
Et c'est bien un Zemeckis, un Spielberg dans la.
Ah ouais. Alors c'est ce que j'allais dire dans la prog.
T'es gâté.
Dans la prog, il y a l'ombre de Spielberg qui est très forte, ce qui est normal. Hein.
Pas faux.
Il s'appelle Zemeckis.
Oui, mais même Zemeckis, en fait, c'est le petit poulain de Spielberg, donc.
C'est ça, c'est le protégé de Spielberg. Ouais, ouais. Et ouais, moi j'adore ce genre, effectivement, et moi j'aime quand il y a du dépaysement, quand il y a des peuplades aborigènes, enfin des autochtones, des peuples inconnus issus de contrées lointaines qui font partie de l'histoire. Il me faut des artefacts. Très précieux, qui brille et qu'il faut aller trouver très très loin et prendre beaucoup de risques pour les récupérer, une carte au trésor. Enfin voilà, tout, c'est pas très original, mais ce sont des ingrédients qui sont très forts, très intéressants et dont j'ai besoin pour vraiment kiffer, quoi.
Et très ciné, parce qu'au final, il y a vraiment. Aller qu'au ciné et dans Échappée Belle qu'on voit tout ça.
Moi, je Greg Cook d'Échappée Belle.
Avec Greg Cook, oui, effectivement. 2 heures de perdu qu'on l'embrasse. Mais d'ailleurs, plus tellement dans 2 heures de perdu, plutôt Culture 2000, Greg Cook, désormais. Je m'auto-corrige. C'est ça aussi, être un bon animateur. Alors.
Jamais mieux servi par soi-même.
Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, je suis un peu heureux de vous revoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, j'ai vécu une vraie aventure parce que j'ai fait Angers, Paris, Paris, Lille pour aller travailler. Et je suis en trottinette électrique, ce que vous voulez, hein, pour éviter de prendre le métro à Paris.
T'as pris le train, mais entre les deux, il y avait de la trottinette.
Bah le truc c'est que voilà, parce que le métro est bondé, mais le train il y a personne en ce moment dans les trains, allez-y, vous pouvez tout lécher. Non, c'est une très mauvaise idée. Vous pouvez être tranquille. Par contre, j'ai pris la confiance en trottinette et je me suis croûté la gueule violemment à peu près à la rue du Louvre, donc juste à côté du Louvre. Ça reste un joli endroit pour se croûter la gueule, mais ça fait quand même pas plaisir. Donc je suis un peu, je crois que ça a tapé sur le cerveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ce qu'il fallait que je vous raconte. Donc je vais donner la parole à Tristan tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que Tristan adore ça, les films d'aventure, même Benjamin Gates et tout, même il aime tout. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc, et j'en ai pas parlé dans ce fameux numéro 9 de Parlons Péloche, mais je crois que j'aime pas ça, les gars. Je déteste ça. Indiana Jones, ça me parle pas, c'est trop bizarre.
Bah, on va peut-être arrêter l'émission. Bah, laisse ton micro.
Non, mais je sais pourquoi.
Laisse ton micro à quelqu'un d'autre pour animer.
Non, c'est pas ça. Au contraire, non, mais l'idée est bonne, Béa. Hein. Je sais pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je vous demande, c'est, vous avez, une grosseur pour peut-être me convaincre.
Non, mais en fait, c'est pas ça,
Tristan,
Thomas, c'est que.
Il va m'insulter.
Moi, j'ai un peu la réponse. C'est que, vraiment, s'il y avait une vraie aventure, un truc à faire, un truc vraiment hyper dur, bah, je pense que tu serais la dernière personne que je choisirais. Parce qu'on serait déjà mort minute 2 avec toi.
Ouais. Oui, ouais, enfin, c'est assez logique, Tristan, je suis assez d'accord.
T'es plus un boulet qu'un héros, en fait, on veut dire.
Ouais,
en termes d'aventure, on parle pas dans la
Benoît Poulvord, il vit des aventures quand même.
Après, dans Koh-Lanta, tu pourrais rester jusqu'à la fin si tu gères bien ton truc.
Ah, c'est sûr.
Mais je comprends pas comment tu peux aimer le cinéma et ne pas aimer le cinéma d'aventure.
Mais c'est fou.
En fait, ça se trouve, il n'aime pas le cinéma.
Le cinéma, c'est l'aventure.
Mais peut-être que ouais.
C'est une imposture, Thomas Dezer. Faut le savoir. Il faut que les gens le sachent.
Et Fouad me montre du doigt pour ceux qui ne le voient pas, c'est-à-dire tout le monde à part. Mais je suis peut-être une arnaque, Béa. C'est possible, mais je sais pas. La dernière fois, on avait parlé de The Lost City of Z, par exemple. J'aime bien peut-être le cinéma d'aventure réaliste, mais cinéma d'aventure.
Quand on voit tes goûts pour les films français un peu obscurs.
Ouais, c'est clair.
Ouais.
Ça m'étonne pas trop.
Les comédies bourgeoises du boulevard Raspail.
Par exemple, si on doit comparer deux choses très comparables, je trouve que le boulet, c'est mieux qu'Indiana Jones.
Quoi?
Mais non, mais tu sais que tu aimes bien La Chèvre, et La Chèvre, pour moi, c'est un film d'aventure.
Ouais. Oui,
j'ai regretté.
Voilà,
ouais. C'est
différent.
Un film d'aventure,
mais parce qu'il y a effectivement le boulet auquel tu peux plus facilement t'identifier.
Mais c'est-à-dire que la façon dont... Non, mais de ouf, en fait, c'est impossible. J'avais pas... La violence n'était pas montée jusqu'à mon cerveau. Je vous rappelle que je suis tombé rue du Louvre sur ces saloperies de pavés à Paris. Je vais pas bien. Bon, en tout cas, Tristan, au-delà de toutes tes insultes, pourquoi
non,
tu aimes
coup,
le film d'aventure?
Je te casse la gueule au Louvre, mais je t'imagine même pas dans la forêt amazonienne, quoi, tu vois. C'est un peu...
Alors, en fait, tu t'es cassé la gueule
Thomas,
au pied d'une
Thomas,
pyramide.
Ce serait Kathleen.
C'est une aventure.
Thomas, ce serait Kathleen Turner, en fait.
Ouais. Alors, on va en parler, mais c'est justement quelque chose qui fait que je suis pas fan de cette époque-là dans le film d'aventure. C'est ce type de rôle, quoi. Tristan.
Mais en fait, t'as voulu refaire une scène de Da Vinci Code, tu t'es pris pour Tom Hanks avec ta trottinette électrique au pied du Louvre.
Ouais. Les grands classiques.
Bah, c'était plus qualitatif que ce qu'a fait Ron Howard sur le truc.
Bon, j'ai toujours pas donné ma réponse.
Ah oui, c'est vrai. On parlait de quoi déjà?
Alors, mais en fait, moi, j'adore, mais tu l'as dit, hein, moi, j'adore les films d'exploration, les films d'aventure. Et je veux de l'humour dans le film, parce qu'il y en avait beaucoup déjà dans les années 80. Après, ça a été quand même pas mal repris. Je veux un vrai méchant cliché. Il y aura du nazi, il y aura de l'italien, il y aura du français méchant, et j'adore parce que ça va vraiment dans les clichés de chaque personnage. Ouais, et après, je veux différentes façons de se déplacer. Je veux du saut et de la roulade.
La trottinette.
La, ouais.
La trottinette, entre autres. Et non, voilà, je veux du rebondissement et du suspense aussi, voilà.
Et en tout cas, t'aimes ça, je crois, mais Antoine aime les films d'aventure aussi, n'est-ce point? Mais ceux des années 80, hein, faut qu'on parle de ça, c'est ça le sujet, pardon.
Non, moi j'adore les films d'aventure. Je pense que je m'en sortirais dans la forêt amazonienne.
Oui,
je pense
toi, que plus que moi, ouais.
C'est peut-être la seule fois dans ma vie où
on peut être moins boulet que toi. Ouais, mais Antoine, c'est parce qu'on a fait les
scouts, ça. Ouais, bah ça, voilà. Aide.
On s'y connaît.
On peut construire une pirogue avec deux bouts de bois et une ficelle, oui.
Mais oui.
Alors, je tiens à dire que je déteste les films d'aventure et je déteste les scouts aussi.
Ah, mais ça joue, hein, tout ça.
Tout ça parce que tu sais pas faire de deux de cabestan.
Et vu que tu me détestes en plus, t'es le gagnant.
C'est faux, ça. Il faut que la France sache. Je t'aime, Antoine, je tiens à te le dire. Tu es le seul que j'ai accepté avec Fouad dans mon appartement aujourd'hui.
Moi, ce que j'attends des films d'aventure des années 80, c'est vraiment la chasse au trésor, quoi. C'est, ouais. C'est le jeu de piste. Le jeu de piste à travers le monde pour un vieil artefact légendaire, c'est ça avec, du coup, un héros qui se retrouve projeté là-dedans. C'est-à-dire que lui, il le cherche pas à la base. Si on lui dit, tu peux l'avoir, c'est pas loin, ça existe. En fait, ça lui tombe sous le nez, que ce soit la carte ou l'information, qui va lui attiser sa curiosité. Et c'est en fait ce désir d'assouvir sa curiosité qui, moi, m'intéresse, parce que le film d'aventure, c'est que ça. C'est des gens curieux qui se foutent dans la merde, mais juste parce qu'ils veulent connaître la fin de ce petit bout d'histoire.
Et on veut des pièges, putain. On veut des gros pièges.
Ouais, ah ouais, les pièges. Je veux des fléchettes empoisonnées. je veux des boulets qui déroulent.
Mais oui,
un seul boulet, on le rappelle, Tristan.
Attends, c'était quoi dans le boulet avec Benoît Poulard? Je veux une grande roue qui débarroule à travers la ville.
Et je veux un camping-car.
Ouais. Ça, mais c'est vrai que c'est un genre qui a été vraiment formaté par Indiana Jones.
Ah bah oui.
C'est incontestable.
C'est ce qu'on va essayer de décrypter un peu aujourd'hui, justement, et notamment à moi qui ai une très faible connaissance des films d'aventure. Vous allez me dire, justement, ce qu'il y a eu avant Indiana Jones, ce qu'il y a eu réellement après. Et je poserai la question, justement, sur l'évolution, notamment des héros dans le film d'aventure. Et il faut savoir, je vais donner la parole à David tout de suite. Je fais que parler de moi. C'est comme ça, c'est aujourd'hui. On a des fois besoin d'exorciser. Mais mon jeu vidéo préféré, c'est Uncharted. Donc pourquoi je veux pas voir ça au cinéma? Pourquoi j'aime ça à travers une manette? Et pourquoi
tu te poses toutes ces questions? Ça s'appelle un trauma crânien. Tu devrais peut-être aller consulter.
C'est hyper
c'est dur
en fait,
les pavés. Hein.
Quand je dois regarder Antoine dans l'écran alors qu'il est juste à ma droite, c'est hyper particulier.
Est-ce que c'est pas mieux?
Non.
Non, parce qu'il a quand même l'odeur.
C'est vrai que c'est la distanciation sociale à la désavantage.
Après, si on oublie le bruit et l'odeur.
Et donc l'aventure d'aujourd'hui, c'est qu'on est 6, hein, histoire de se complexifier le bordel, j'ai rajouté un chroniqueur, David, qui en rappelle a dépensé 150€ pour avoir un micro à distance. Donc
absolument.
Je me suis dit, bah ça lui donne le droit d'être dans une émission supplémentaire.
Il est prioritaire.
David, c'est comme ça que le monde marche, David, hein, c'est un peu triste. Ah, mais...
On achète sa place à part
le capitalisme.
Sachez-le, Thomas est un salaud.
Alors David, les films d'aventure. Qu'en est-il de ton côté?
Mais moi, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais j'ai une grande phobie, c'est d'avoir les pieds mouillés alors que j'ai des chaussures et des chaussettes. Et du coup, je passe un super mauvais moment.
Alors, je confirme que t'en as pas parlé dans cette émission.
Je passe un super mauvais moment à chaque fois que je regarde des films d'aventure des années 80, parce qu'ils font que ça.
C'est vrai.
Ils n'arrêtent pas de marcher dans des flaques d'eau et dans des ruisseaux et tout.
Ah ouais.
Non, mais en vrai, c'est un vrai bonheur ce film, parce que c'est le genre de film que tu regardes quand ça va pas, quand t'es malade, quand t'es déprimé ou que t'es confiné depuis 2 mois, tu vois. Et c'est le genre de film que j'ai trop hâte de regarder avec mon gamin, parce que c'est vraiment des trucs, tu t'éclates. Comme on l'a dit, quoi, donne-moi des fléchettes empoisonnées, des énigmes, des plafonds qui s'écroulent, des pics qui transpercent en haut, en bas, sur les côtés, des héros bougons mais courageux, des femmes fortes mais en détresse quand même, des contrées lointaines. Des autochtones en pagne et un peu de racisme.
Pas des pieds mouillés.
Ouais, non, pas des pieds mouillés. Mais tu vois, c'est des films qui sont faits pour s'évader. Et moi, je me dis que j'ai déjà du mal à gérer les fourmis dans mon jardin. Donc au final, c'est pas mal de rester dans son coin et d'avoir les pieds secs.
D'ailleurs, ça me donne directement une idée de question. Si vous ne deviez en choisir qu'un pour faire une aventure périlleuse avec vous, est-ce que ce serait plutôt David ou plutôt moi? Je veux pas être dernier, les gars.
Moi, j'ai été scout, hein, quand même, je le dis.
Ah ouais, je prends
clairement. Oh, bah, là, c'est bon, j'ai perdu. J'ai perdu.
Neuf cabestan, je connais. Les patates en haut de la tente pour éviter les éclairs de la foudre, je connais. Non, c'est bon, on est au taquet.
Bon, là,
bon, bah, c'est pas grave.
Franchement, j'hésite.
C'est pas grave, mais en tout cas, voilà, on l'a dit, hein, c'est important d'en parler, effectivement, le vrai problème lié aux verrues plantaires, hein, dans les films d'aventure. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? Alors moi, c'est un peu mes analyses à moi, mais je me dis, voilà, le film, notamment des années 80, peut se rapprocher, tendre... Se séduire, se rapprocher, embrasser de très près le nanar, la limite peut être très proche.
Oh, je peux pas dire ça.
Non, mais elle peut être proche. Je parle pas d'un film entier, je parle de séquences. Tu vois, il peut très vite y avoir une scène où tu te dis, ah, là c'est pas crédible, là c'est, tu vois. Non, mais c'est ça, avec ça que le réalisateur doit jouer.
Non, mais t'as raison, parce que regarde.
C'est l'aventure. Ouais. C'est le principe.
La différence entre Indiana Jones 1 et Indiana Jones 4, tu vois, dans le 4, on se rapproche vraiment dangereusement du nanar et du loufoque.
Voilà. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Le risque est grand. En tout cas, ça n'hésite pas à aller dans l'invraisemblance. C'est un film qui va de Caribe dans Scylla. J'ai dit souvent, c'est un peu rythmé comme ça. On va de piège en piège et de méchant en méchant qu'on rencontre sur sa route. Il y a souvent une histoire d'amour. La notion de danger doit être très présente. On a des environnements typiques, les temples, la jungle, les déserts, les grottes, les passages secrets, les énigmes. Ça met des coups. Il y a des morts, hein, on n'hésite pas à tuer des gens. Il y a des combats, il y a de la violence, voire des images chocs parfois. On parlera d'un certain Indiana Jones, justement. Et il peut y avoir, hein, et vous ne me contredirez pas, vous là-bas, du machisme dans les relations hommes-femmes.
Ah bah... Indiana Jones 2, par exemple, il est gratiné pour ce... Pour
ouais, mais pour le voilà. coup, il y a des personnages ouais. féminins assez forts dans les Indiana Jones.
Mais le 1 et le 3...
Et très faible aussi.
Ouais, mais, en fait,
les 1 et les 3, il y a des personnages féminins,
mais
moi...
Ouais, mais elles sont toujours quand même en détresse à un moment donné, et le héros doit
un peu fonction, sauver, quoi.
Bien sûr.
Et toujours un peu de racisme voilà. aussi.
Il y a clairement... Bah, ça, c'est ce qui est peut-être pas mal, c'est justement la méconnaissance des autres qui fait qu'on s'y croit supérieur. Et malheureusement, c'est vieux comme le monde, ça n'a pas disparu. Il y a des réalisateurs associés. Je suis complètement fou, je crois. John Carpenter, Michael Curtis, John Huston, Peter Jackson, David Lean, George Lucas, Steven Spielberg, Raoul Walsh, Robert Zemeckis. Mais plus précisément, pour ceux de quoi on parle... On va surtout parler aujourd'hui de Lucas, Spielberg, Zemeckis. Mais dans quoi on va parler de ça, les amis? Bah, dans le nom de Zeus. On passe tout de suite au nom de Zeus.
Nom de Zeus.
Le nom de Zeus, c'est le moment de l'émission où on fait le tour d'horizon de trois films d'aventure sortis dans les années 80 pour voir ce qu'était ce genre à l'époque. On écoute tout de suite ce à quoi nous allons nous intéresser ce soir.
C'est notre dernier week-end ensemble. Le dernier week-end des Goonies. Faut que la bande finisse en beauté, quoi.
Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche.
On drague en 4x4? On sniffe un peu de coke? On descend quelques bières?
Écoutez, patron, si vous voulez toujours l'arche, elle va partir par camion au Caire.
Mais non! Il a fallu que le grand frère fasse tout foirer en loupant son permis de conduire.
Hey,
je sais pas quoi faire de toi, mon garçon.
Mais soudain, il apparut, mon bien-aimé. Celui sur qui je pouvais compter. Le seul, l'unique.
Alerte au con!
Ouvrez!
C'est Choco.
Oh merde!
Arrête, Bagou!
Vous l'avez entendu, aujourd'hui, il sera question de Indiana Jones, les aventures de l'Arche perdue, plus connue sous le nom Les Aventuriers de l'Arche perdue, les Goonies et À la poursuite du diamant vert. Je parlais de contradiction tout à l'heure dans ma façon de penser, même si on n'est pas là pour parler de moi, mais pour des films d'aventure des années 80, les Goonies fait partie de mon top 10 de mes films préférés. Vous voyez? Voilà, c'est fou l'être humain.
En roue libre, Thomas, il est over the top.
Je pense vraiment que c'est un trauma crânien.
Ah ouais, non mais
en fait, j'arrive pas à gérer que vous soyez là et là. J'ai l'impression de.
Ça fait bugger le cerveau.
Je deviens fou. Commençons par.
Putain, si je pouvais pirater les caméras du Louvre extérieur, vraiment, je le ferais. Pour essayer de voir ta croûte.
Il y a des images.
Mais non, mais il y a un mec qui m'a vu tomber. Et il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y avait un mélange entre j'ai pitié de ce gars et c'est le coronavirus, frère. Donc il m'a pas du tout aidé, il m'a juste regardé, jugé, et là il est en train d'en parler chez lui. Alors, Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue, parce qu'on parlait des pics, bah, on continue dans les pics. 1936, Indiana Jones est mandaté par les services secrets pour retrouver le médaillon de rat en possession de son ancienne conquête, Marion Ravenwood. Alors, la question anecdote, je l'aime beaucoup. La scène culte tournée à Kérouan, où le sabreur arabe se fait abattre d'une balle par Indiana Jones, n'était pas dans le scénario original, qui prévoyait à la base un combat au fouet et au sabre. Mais pourquoi finalement on a juste eu poum poum
parce
dans le...
qu'ils avaient une centrie, ouais, ils avaient une tourista, toute l'équipe, tout
Harrison
ça.
Harrison Ford était.
Il avait la colique.
Voilà, ça, ils étaient tous malades, sauf Steven Spielberg qui mangeait des conserves.
Voilà, donc c'est fou, une des plus grandes scènes du cinéma est née grâce à une bonne chiasse. C'est incroyable.
Et donc
incroyable,
il restait là, impassible, il pouvait pas bouger, il pouvait pas faire tout. Ouais.
Mais en vrai, c'est.
Et ça fait une scène culte,
magique,
quoi.
Magique. C'est de la violence gratuite, quoi, cette scène. Et on la touffe tous.
Alors que toi, en te croûtant devant le Louvre, tu t'es chié dessus aussi.
Il n'y avait pas de dysenterie, juste de la peur panique.
Mais par contre, c'est une scène culte pour la personne qui t'a regardé.
Ouais, ça c'est clair, cet enfoiré qui m'a pas tendu la main. Bon, j'avais une autre info à vous donner là-dessus. On est à Hawaï, on est en 1977, on est pépouze, on est sur la plage avec George Lucas et Steven Spielberg. Steven dit à George, voilà, j'ai envie de réaliser un projet, et George lui répond, non frère, j'ai une bien meilleure idée, et cette idée c'est Indiana Jones. Mais le souhait de Steven à la base, c'était quoi? C'était quoi ce projet qu'il voulait réaliser?
Un James Bond,
Fouad, voilà, il connaît bien, je savais que je piégerais pas grand monde ce soir, hein, parce qu'on a des cinéphiles autour de la table, un indice s'affiche sur votre écran. Effectivement,
C'est mais les tiennes, quoi. Question pour un champion.
Non, mais ce que j'aime bien, c'est que cette conversation à Hawaï, je pense que là, tous autour de la table et de l'écran, on va y être, quoi.
Puis c'est une anecdote hyper connue.
Déjà,
quoi.
Ouais,
ça fait partie de la légende. Parce que, pardon Thomas, Spielberg venait de sortir Rencontre du Troisième Type.
Ouais, c'était cette année-là.
Et Julius Lucas, Star Wars, et ils discutent de ce qu'ils vont faire après, etc.
Après, clairement, si je pouvais voyager dans le temps, j'irais voir d'autres trucs, tu vois.
Fouad, quelle place a-t-il dans ta cinématographie, ce film?
C'est l'un des plus gros souvenirs, l'un de mes premiers au cinéma. Parce que c'est un film qui date de 80 et que j'ai revu, il devait être ressorti en salle, parce qu'à l'époque, dans les années 80 notamment, les films, il était très courant que les films restent très longtemps en salle, et je l'ai vu en salle, ça devait être en 86-87, c'est mon premier gros souvenir de cinéma, c'est je crois le film que j'ai le plus vu dans ma vie, je crois que j'ai dû le voir une bonne trentaine de fois. C'est, alors on dit le film parfait n'existe pas, si le film parfait existe, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue.
À ce point-là, d'accord.
Ah oui, c'est le film parfait. C'est un film dont je me lasserai jamais de la vie. Je peux le voir à tout moment. Et c'est l'un des rares films sur lequel, en fait, que je continue à voir avec des yeux de gamin, en fait. Je n'ai pas du tout le recul de l'adulte. C'est toujours un film que je vois avec mes yeux de gamin. Enfin, comme la première fois, en fait.
Ouais.
C'est un film qui est précieux, qui est jubilatoire. C'est un film qui est parfait, tout est parfait. C'est un film qui n'a rien inventé, en fait, en définitive, parce que il a fait que recycler des vieilles recettes. C'est une idée donc de George Lucas à 100%, absolument à 100%. Et en fait, c'est un hommage aux États-Unis dans les années 50, où le samedi matin, il y avait des petits feuilletons d'aventure, les Saturday Matinee en VO, qui sont des petits feuilletons d'aventure en noir et blanc, qui se terminaient toujours en cliffhanger. Donc c'est avec une fin accrochante qui te donne envie de regarder l'épisode de la semaine d'après.
Comme Plus belle la vie.
Ouais, un peu, je sais pas, jamais vu, mais
toujours un cliffhanger à la fin.
Et donc c'est un film qui a recyclé ces feuilletons que George Lucas regardait dans sa jeunesse. Ouais. L'hymne, la musique d'Indiana Jones, tout est mythique dans Indiana Jones. Le look du personnage, son look, sa dégaine et la musique.
Alors,
c'est
autant,
la musique officielle de l'aventure.
Autant John Williams sur le thème principal, voilà, autant sur le thème musical du couple, c'est pas foulé. Il y a un petit peu un recyclage de Star Wars quand même.
Oui,
un petit peu.
Ouais, alors en fait, il avait trois idées de thèmes pour Indiana Jones et il les a proposées à Spielberg. Spielberg a dit, écoute, j'aime les trois, donc tu fais les trois. Et le thème de, tu parles du thème de Marion.
Bah, en gros, ouais, de Marion.
Et effectivement, moi, je l'aime.
Il ressemble au thème de Leila et...
Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais, c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup.
Il ressemble beaucoup.
Mais tous les noms claquent, quoi. Marion Ravenwood, ça claque, ça, comme nom. Abner. tu vois,
c'est le nom du cochon dans Arnold.
C'est Abner Ravenwood. Enfin, tu vois, c'est ça claque, quoi. Et puis c'est bourré de plans mythiques. La scène de classe, la scène de classe où il se fait draguer par une étudiante avec I love you marqué sur les paupières. C'est que des scènes mythiques.
Tu m'as convaincu, Fouad. C'est mon film préféré.
C'est
je
le
pense,
cinéma.
Désormais.
En fait, le cinéma, c'est Indiana Jones en définitive.
Mais en tout cas, des gens se sont déplacés au cinéma en France pour aller voir Indiana Jones. On va faire tout de suite la question box-office parce que c'est un vrai succès. Et du coup, je vais en profiter pour donner le bâton de parole à Béa. Mais Béa, avant de parler, pour toi, combien il y a eu d'entrées en France pour Indiana Jones? En vrai, c'est une question tricky. Ça a marché, je
pense. Bah ouais, je vais dire 6 millions.
Ouais, oh, Tristan?
12 millions.
Fouad?
6,5.
Antoine?
9 324
822. Ouais, et David, pour conclure?
4 500 000.
Et qui est-ce qui gagne tout ça?
C'est Thomas.
Elle a le sourire. C'est
non,
Béa.
Mais non, c'est pas vrai.
C'est Béa. 6 397 selon les règles du juste prix. Tu gagnes, sinon c'est Fouad. Mais 6 397 117 entrées. Béa, est-ce que tu étais dans ces gens et surtout, quelle place a Indiana Jones
en tête ? Eh bien non, écoute, ce n'est pas le premier Indiana Jones que j'ai vu. Le premier Indiana Jones que j'ai vu au cinéma, c'était le 2, c'était le Temple Maudit. Bizarrement, le premier, enfin les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est pas celui que j'ai le plus revu. J'ai beaucoup plus de plaisir à revoir le deuxième. Néanmoins, oui, évidemment, c'est le film d'aventure par excellence. On sent qu'il a renouvelé un genre qui était un peu perdu depuis les années 40-50. Et là, il renouvelle totalement le genre. Et puis bon, on va le redire et le redire, mais il a tellement influencé tout le film d'aventure après. De toute façon, Lucas et Spielberg, à l'époque, c'est clairement les pionniers du renouvellement de genre, parce que Lucas l'a fait avec l'Empire Contre-Attaque. Là, d'ailleurs, le scénariste des Aventuriers de l'Arche Perdue, oui, c'est le même scénariste que l'Empire Contre-Attaque. Enfin, voilà, il y a tout un univers comme ça qui est le renouvellement. Moi, j'adore, évidemment, Harrison Ford, qui est au sommet de sa sexitude. C'est vraiment le bad boy.
J'avoue que même moi, qui suis très hétéro, il ne m'a pas laissé indifférent.
Non, mais...
Non, mais c'est vrai,
vraiment,
il a la classe. Il est très charismatique.
Non, mais et puis au-delà de ça, voilà, c'est pas le héros lisse. Ce qui est fou aussi, c'est que finalement, c'est une histoire hyper classique. On a le parcours du héros, mais Spielberg réussit à en faire une aventure et à faire un héros iconique, alors que c'est classique, mais il y a toute cette résonance mythologique, biblique. Il s'est pas caché non plus de s'être beaucoup inspiré de Cécile B 2000 avec les 10 commandements. Enfin, il y a donc beaucoup de plans hyper grandioses et oui, très très biblique, religieux, et ça on le retrouve aussi dans la trilogie. Je dis la trilogie parce que pour moi le 4 n'existe pas, mais voilà.
Oui, bah les fans de Lucas et de Lucas surtout, tout ce qui est lié à l'œuvre de Jean-Lucas, parfois doivent faire du déni, hein. Globalement, hein, surtout sur toute l'œuvre, quoi. Enfin, vous voyez ce que
souvent,
je veux dire.
Souvent, souvent même.
Voilà.
et voilà. Et moi j'aime beaucoup le personnage de Marion aussi, qui pour moi, enfin pour le coup, je trouve que c'est la meilleure des. J'allais dire des James Bond Girls, mais pas du tout des Indiana Jones Girls.
Non, puis surtout qu'on va parler du diamant, du diamant vert tout à l'heure, et on verra qu'en termes de traitement, voilà.
Ouais, mais c'est pas inintéressant aussi. On en parlera tout à l'heure de.
Ouais, je sais que t'adores en plus. Enfin, ça va être gratiné.
Non, mais le personnage de Marion, j'aime beaucoup parce que.
Elle est top.
Parce que déjà, il y a cette femme donc qui a été donc on imagine bien jetée par Indiana Jones juste avant, enfin quelques années avant. Donc elle a cette rancune et puis elle est forte, quoi, enfin elle est
tough girl,
elle est à la fois, elle est virile aussi, enfin à sa manière, enfin.
Pour ceux qui ont joué à Uncharted, ça rappelle énormément un des personnages de Uncharted, justement, ce qui est normal,
hein. Grave, Nathan Drake.
Pas mon préféré des Indiana Jones, mais évidemment fondateur de plein de choses, donc mon respect éternel, voilà.
Et je me permets de rajouter une petite couche par rapport à ce que je disais aussi, c'est que moi je suis conscient que c'est des très bons films, hein. C'est vraiment pas la qualité du film que je me permettrais de remettre en question. C'est plutôt une histoire d'attirance. Je parle plutôt avec le cœur par rapport au fait que je suis pas attiré par ça. Fouad qui voulait rajouter une couche à Béa.
Parce que Béa parlait du Temple Maudit. Et je disais tout à l'heure que c'est un film qui n'a rien inventé. Je conseille nos amis qui nous écoutent de regarder le diptyque de Fritz Lang. Le tigre du Bengale et le tombeau hindou, ce sont des films allemands. Der Tiger von Erzkapur et Das Indische Krabmal. Bon, désolé, j'ai fait espagnol en deuxième langue. S'il y a des germanophones, ils me corrigeront. Et ce sont, je crois que ça date des années 40. C'est un diptyque, hein. En fait, c'est un grand film qui est coupé en deux. Ce sont des films absolument sublimes que Fritz Lang a tourné en Allemagne après la guerre. Et vous regardez ces films-là et vous verrez d'où vient Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est carrément un remake de ces films-là.
C'est dit, d'où vient David ? David, on va demander l'avis de David. David qui, avant le confinement, était un petit peu un aventurier, un des salles obscures quand elles étaient encore un peu ouvertes. David, quelle place donc à Indiana Jones dans ta vie, ta life ?
C'est un de mes films préférés. C'est pas mon préféré comme BA d'Indiana Jones, mais enfin voilà, l'ouverture, cette ouverture, ouais. Elle est l'ouverture. Absolument géniale. Du premier fondu de la montagne Paramount avec jusqu'à la fin, avec les premières notes du thème de Williams, c'est grandiose de maîtrise, de souffle, t'es littéralement scotché à ton siège. Tout ce que tu t'imaginais avec tes action man dans ton jardin, Spielberg, il l'a fait avant ta naissance parce que il joue avec ses acteurs et en fait, c'est un gamin avec une caméra et il s'éclate. La photo, tu sais direct que t'es dans un Indiana Jones. Je sais pas comment c'est fait, mais n'importe quelle image du film, tu sais que t'es dans Indiana Jones.
Ouais, ouais.
Et moi, j'adore le début parce que tu vois pas Harrison Ford. Ouais. Tu vois que de dos, tu vois ses mains.
Il se retourne là au bord de la rivière. Mmh.
Mais voilà.
C'est l'une des plus grandes ouvertures au cinéma.
Béa. Oh là 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 là.
Béa, les yeux rieurs.
Mais voilà.
Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, qu'on n'a pas rencontré du monde, Béa. Hein.
Mais c'est comme ça que tu construis un héros. Et Spielberg, il sait que son héros est iconique. Il s'amuse à filmer sa silhouette avec une ombre, un coucher de soleil. Tout le long du film, on a la silhouette d'Indiana Jones. Et voilà. Après, c'est, enfin, on va pas répéter tous les trucs. C'est un des meilleurs scores de John Williams. C'est quand même un film avec un singe nazi. Donc voilà, c'est quand même un des meilleurs films du monde. Rien que pour ça.
Faut le noter, c'est à noter.
Ouais. Et voilà. Enfin, le final avec ses images chocs, etc. Et en revoyant le film pour la 17e mille fois, je me suis dit, à quel âge je vais pouvoir le montrer à mon gamin? Parce que c'est quand même un peu hardcore, finalement, Indiana Jones. Et
voilà, moi, c'est mon premier souvenir horrifique.
Et du coup,
c'est mon premier souvenir.
Ouais, ça fait peur. Puis, ouais. Puis comme je le disais dans les caractéristiques du film d'aventure, il y a du mort, hein. Il y a beaucoup de films où ça passe. Voilà, il y a quelqu'un meurt et bam, c'est comme ça. Il se prend de un jet d'acide, c'est mort, c'est fini.
La scène finale,
est gratinée. Il y a d'ailleurs une scène finale qui a été charcutée un peu au montage parce que justement, il y a de la censure là-dessus.
Mais du coup, je sais pas sûrement, si j'attends qu'il ait le bon âge ou si tant pis, je le traumatise, mais au moins, il aura vu un Spielberg, quoi.
Ton fils.
Maintenant, tu parles de maintenant.
Oh non, bah, il va avoir 2 ans.
Ouais,
je l'ai vu.
Commence par E.T.
Tu devrais lui monter la couleur pourpre d'abord.
Et montre-lui le 2, le Temple Maudit, il est beaucoup moins fort.
Tu perds le cœur.
Kalima.
Après, peut-être que
cervelle de singe.
Lui faire commencer par le 4, peut-être, histoire que tout le monde crescendo.
Ah ouais, le 4, personne ne meurt, tout va bien.
Tranquille,
Il y a des petits singes qui font des courses-poursuites.
Il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée des grottes et tout, c'est pas le même délire.
non, c'est alors, j'ajoute juste vite fait que c'est un film que Spielberg a fait avec presque un pistolet sur la tempe parce qu'il sortait d'un gros échec, c'est-à-dire 1941, qui avait complètement explosé son budget et son planning. Et Spielberg a tout de suite eu une réputation. D'ailleurs, tous ces films, ces 3 premiers films, avaient explosé leur budget et leur planning. Et la chance qu'il a eue, c'est que Jaws et le Rencontre du troisième type ont cartonné. Mais 1941 n'a pas eu le succès escompté. Donc, il avait une réputation à l'époque de cinéaste capricieux, indiscipliné, dépensier. Et à qui gérait mal ses budgets, qui était en gros un mauvais gestionnaire.
Ouais.
Et Indiana Jones, c'est un film qu'il a fait, qu'il a tourné très vite et en dessous du budget. Et c'est un film qu'il a remis en selle et qui lui a prouvé qu'il pouvait tourner un film très rapidement en dessous du budget.
Ils l'ont tourné en 2 mois, je crois, 70 jours.
C'est pour ça qu'il y a eu plein de scènes. Il y a plein de scènes coupées dans le film. Il n'y a pas que mais il y a plein d'autres scènes coupées qui ont été recyclées ensuite dans le 2. Et quand on voit le résultat,
ça lui a donné une éthique de travail assez dingue parce que maintenant, à chaque fois qu'il finit un film, il finit toujours en temps et en heure, voire même en avance.
toujours en avance, sous le budget, et George Lucas l'a beaucoup aidé à se discipliner par rapport à ça.
Ouais, parce que George Lucas, un gros bosseur, comme on le sait. Hein. Alors, pardon. On parlait de construction d'un héros, David et moi. Ça fait déjà plus de 70 émissions que je me comporte comme un zéro avec Antoine. Donc là, je lui donne la parole, Antoine. Antoine, toi, Indiana Jones, c'est ton dada aussi.
Ah oui, oui, c'est totalement ma cam. J'adore ça. C'est aussi des films que j'ai vus pas mal de fois, depuis toujours. Mais il y a tellement de choses qui ont été dites. David a raison, cette scène d'ouverture, moi, je la trouve géniale. On est tout de suite dans l'action. J'ai envie de dire, c'est tout de suite les pièges, la recherche. C'est juste cette scène. Le début, elle est culte. Ah, elle est culte parce qu'il y a tout. Il y a ce petit échange de la statuette avec un petit sac de sable et tout. Ouais.
Mais de toute façon, c'est trop bien. Tu le vois passer à la télé, c'est impossible de changer de chaîne. Tu t'es obligé
de scotcher. De connaître la suite.
Ah ouais.
C'est trop bien. Et tu voyages, tu vois. On parlait de dépaysement.
S'il y a un bon Claude Zidi à côté, pas sûr que je me laisse pas tenter.
Dundee, tu vois.
Crocodile Dundee, ouais.
Non, mais un bon. T'as vraiment du dépaysement. Tu pars au Tibet, même si c'est juste une scène de bar, elle est parfaite.
Ouais,
tu
ouais, vois. Ouais.
Alors, en fait, c'est ça que j'aime aussi dans ce film qui a été fait très rapidement, c'est qu'il y a quand même un souci du détail, y compris dans le scénario. Moi, je trouve ça génial que, techniquement, la carte, la fameuse carte au trésor là qu'ils cherchent, c'est en fait un médaillon que eux auront, mais l'entité adverse, les nazis, auront la moitié de la carte par, je trouve, quelque chose d'extrêmement astucieux, extrêmement kiffant, à savoir que le médaillon chauffe et qu'il va brûler, en fait, la main d'un nazi. Et du coup, ils vont avoir que la moitié de la carte et ça va, ça déroule tout le scénario.
Ouais, ouais, ouais.
T'as été piqué dans Maman, j'ai raté l'avion, ça.
Oui, j'y pense à chaque fois.
Et je trouve ça génial, ultra malin, c'est beau. J'ai envie d'aller en Égypte. J'ai envie de me cacher dans un panier.
Déterrer des sarcophages.
Non, elle est dans un club Marmara.
Je vais quand même pas me foutre des insectes. Moi, je suis comme David, hein. J'aime pas avoir les chaussettes mouillées.
Ah non, parle pas, j'ai des surfs.
Non, je me demande.
Et Salah, on n'a pas parlé de Salah.
Ah, quel célèbre attaquant de Liverpool. Hein. Il aurait pu être ballon d'or. Tristan, je te torture. Je te torture depuis... En te faisant passer en dernier, parce que je pense qu'Indiana Jones, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton enfant. Ouais. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Je suis Laurent Boyer, qu'est-ce que t'as à dire?
Ouais, regarde, je suis un peu dans la nature, là.
Ah, un oreiller, un oreiller, je pour les auditeurs,
tout fait tomber.
Une parure de lit.
Une parure Ikea, ça, non?
En feuille.
Ouais, exactement.
J'aurais dit Maison du Monde, tiens.
C'est l'imprimé
Vlugu. Oui, c'est l'imprimé Vlugu.
Ouais, oui, c'est carrément ma cam, comme Antoine. Je trouve que c'est assez intemporel, ça vieillit pas du tout... Le truc, il a 40 ans quand même. Et,
c'est une question que je pose.
Tu vois pas du tout, les décors sont magnifiques, les effets spéciaux sont magnifiques.
Il y a des incrustations, un poil vieilli quand même.
Ouais, je trouve pas tant.
Ouais, ça va. Allez, il y a juste.
C'est du chipotage.
Les sales nuages derrière, une fois qu'ils ont l'Arche d'Alliance, il y a les sales nuages qui sont pas très beaux, mais c'est tout quoi.
Ou le premier cadavre aussi, il est dégueulasse.
C'est parfait.
Franchement, il
y a des petits trucs comme ça quoi.
Et pour moi, ce qui m'a fait vraiment aimer les films d'aventure, vous l'avez dit, c'est cette scène d'intro quoi. Il y a tout dedans.
Mythique,
c'est ce qu'on veut voir. Il y a du piège, il y a vraiment tout. Il y a un trésor et la présentation du perso, elle est parfaite parce que oui, comme a dit David, on le voit pas. On le voit que de dos. Il y a la caméra qui est à mi-hauteur. Du coup, il découvre en fait. C'est un peu à hauteur d'enfant en fait. Et du coup, quand tu regardes le film, t'es comme un gosse.
La caméra est plantée dans le sol en fait. Elle est plantée dans le sol. Ils ont creusé un trou pour planter la caméra.
Mais c'est ça.
Et avoir le premier plan du film quoi. C'est,
exactement. Ouais. Et
c'est
puis
mythique.
Et pour le coup, ouais, c'est comme dit Béa, c'est un vrai héros un peu crade quoi. Il transpire contrairement à Benjamin Gates, alors que moi j'adore. Hein, ils ont repris beaucoup. Benjamin Gates ne transpire pas. Contrairement à Indiana Jones. Non, mais c'est vrai. Enfin,
c'est parce que
ça change
tout. Parce que la sueur glisse sur Nicolas Cage.
Ouais.
Exactement.
Ou alors il s'hydrate moins.
Mais c'est Nicolas Cage.
Non, et puis après, voilà, moi, je sais pas vous, hein, c'est peut-être mon avis que perso, mais il y a un côté jubilatoire de voir des nazis cramer.
Ah, bah donc, oui, bien sûr. Ça fait toujours plaisir.
C'est vrai que.
Voilà.
Donc, on peut vous conseiller, hein, les films de nazis cramer, Inglourious Basterds, il y en a peut-être d'autres. Le vieux fusil, c'est plutôt l'inverse.
Mais pour l'anecdote, fun fact.
Ah,
le film a été tourné notamment au studio de Shepperton, je crois, à Londres, dans la banlieue de Londres. Et
Qu'est-ce qu'il vient ?
Même moment, Kubrick tournait Shining dans le studio d'à côté.
Ah.
Et c'est durant ce tournage que Spielberg a rencontré Stanley Kubrick. Voilà, je referme.
Oula, là, encore un endroit, on aurait aimé être. Salut, moi c'est Stan, bah moi c'est Steven.
Ouais.
Bon, bah voilà, on se prend un caf. Bah voilà, ça devait être un grand moment pour le cinéma.
En France,
il y a dû avoir d'autres trucs après. Hein,
en France, l'équivalent, c'est quand Kev Adams a rencontré Franck Dubosc sur le tournage de Fiston.
C'est notre équivalent français, c'est vrai. Ma question sur le film, alors on parle beaucoup parce que c'est Spielberg, on va essayer d'être un peu moins loquace pour la suite de l'émission, mais c'est Spielberg, c'est Indiana Jones, on s'attaque à une légende,
mec,
hein.
Ouais, attends.
J'ai l'impression, voilà, c'est pas, on peut pas juste dire bon, c'était sympa, non, faut aller plus loin. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Le personnage de film d'aventure est-il résolument toujours le même? Est-ce que finalement un Benjamin Gates et un Indiana Jones, c'est le même, quoi? Est-ce que c'est toujours le même, ou est-ce que selon vous il y a des subtilités? Moi je m'oriente un peu vers un oui. C'est pour ça que j'ai posé la question. Tristan fait non de la tête. Tristan.
Alors on va le voir dans la sélection, c'est pas tout le temps les mêmes. Enfin en tout cas ils sont pas si bien construits. Parfois il y aura vraiment juste un physique qui va être là juste pour des scènes d'action. Moi, pour moi, c'est Michael Douglas dans La poursuite du diamant vert. Et c'est la construction scénaristique du personnage. Souvent, elle est pas hyper poussée. Moi, ça me dérange. Alors qu'Indiana Jones, il y a tout. Il y a le background où il est prof d'histoire. Et voilà, il y a des personnages qui vont être plus courageux que d'autres. Enfin, en fait, non, ils ont vraiment, il y a beaucoup de nuances dans chaque
le
personnage.
Le héros, hein, je parle vraiment du héros. Mais...
Ouais. Enfin, non, moi, je parle du héros, le héros principal. Hein. Il y a beaucoup de différences mineures à la base, c'est quand même le même, hein, mais voilà.
Bien.
Oui, bah en fait je suis d'accord que dans les années 80 le héros était souvent comme ça, puisque comme on le disait, Indiana Jones a quand même lancé la mode donc de ce genre de film d'aventure. Par contre, dans les années qui ont suivi, je pense qu'on est allé plus vers des aventuriers où il y avait quand même une dimension psychologique beaucoup plus fouillée, ce qui n'est pas forcément le cas dans Indiana Jones par exemple. On va pas trop loin dans la psychologie du personnage, c'est pas très fouillé. Un peu dans le 3 avec son père, avec la relation avec le père, tout ça.
Ouais,
mais voilà,
3, ouais.
Mais sinon effectivement, c'est pas là-dessus que ça porte. Et après on va avoir tout à l'heure tu parlais de Lost City of Z. Bon bah là on est quand même sur de l'aventure, mais où la dimension psychologique est beaucoup plus importante.
C'est presque deux genres différents finalement.
C'est de l'exploration.
Oui, mais enfin en tout cas, bah ça reste un film d'aventure quand même. Enfin
Ouais.
Dès lors que t'as pas le côté surnaturel, t'as forcément pas le même héros, mais t'as eu raison de placer ça, hein, mais je fais que, en fait, abonder dans ce que tu dis. Finalement.
Mais c'est vrai que dans les années 80, ces héros sont sensiblement du même type.
Proche, quoi.
Bah, c'est des archétypes, quoi.
Comme tu dis, on va pas fouiller.
Ouais, mais tu vois, Indiana Jones, on va mettre en avant si son intelligence d'archéologue. Alors que Michael Douglas, tu vois, pour le coup, il le montre pas, ça, pas du tout.
Ouais, c'est vrai que ce qui est génial.
C'est un débrouillard.
Ce qui est génial avec Indy, c'est qu'on le découvre dans une aventure, dans une contrée reculée, et que la scène d'après, on s'aperçoit qu'il est prof.
Ouais.
Et c'est ça que j'adore, c'est que c'est sa double vie.
C'est
en fait.
Superman et Clark Kent, quoi.
Ouais, pour le coup, sur lui, on a ça en plus. Ouais.
Et ça donne tout de suite de la profondeur.
Surtout qu'il est chiant, comme prof.
Bah oui, il est hot, apparemment.
Il se tape de l'étudiante, quand même.
Il se fait harceler par des étudiantes. Et c'est ça, ça lui donne tout de suite.
Je vois Béa qui sourit.
ça lui donne tout de suite de la profondeur. Et dès les 15 premières minutes, on sait tout. Voilà, il est courageux, il est fort. Il a peur des serpents, donc il a un point faible.
Les pieds mouillés aussi.
Et il est cultivé.
David, sur le
prof,
héros.
Quoi. C'est un savant.
Non, mais moi,
quoi.
Je préfère limite... Si tu veux me vendre un film d'aventure, on en parlera pour les Goonies, donne-moi des archétypes, quoi. Et je vais m'éclater encore plus.
Ouais, toi, ça fait partie des ingrédients du...
Exactement, comme pour les films d'action des années 90 ou les buddy movies, ou etc. C'est des archétypes, et c'est pour ça que tu vas passer un bon moment. Après, n'hésite pas à exploiter un peu leur personnalité, leur psychologie, mais... Rien que pour le ride et le plaisir d'évasion, oui, donne-moi des archétypes, fais-moi le truc le plus simple possible en termes de scénar, mais fais-moi rêver dans tes scènes d'action, quoi, comme un bon porno presque.
Bah oui, c'est bien choisi
une
ça.
Vraie aventure. Une vraie aventure.
Pas encore dit finalement, bon porno depuis le début de l'émission, je me suis dit vous allez être triste.
Non, mais en même temps, on est sur de l'effusion, de l'extravagance, c'est pas si éloigné comme genre. Mais non, mais ce que je veux dire, on dit à peu près tous la même chose finalement. C'est quand même qu'il y a quelque chose qui a été construit. Tristan vante que forcément un personnage est jamais exactement le même, mais c'est vrai qu'on a des gros traits communs parce qu'un aventurier, on lui recherche certains points communs. Fouette pour conclure sur la question.
Et oui, et juste pour ajouter que effectivement, il y a des archétypes. parce qu'il en faut, mais c'est ensuite l'acteur qui va faire la différence. C'est l'acteur qui va tout faire en fait. C'est l'acteur qui va porter le personnage et qui va faire que tu vas y croire ou pas. Parce que vous le saviez certainement et tout le monde le sait, c'est très connu aujourd'hui. Tom Selleck était le premier choix.
Ouais, c'était lui.
Pour jouer Harrison Ford. Et c'est vrai qu'aujourd'hui
quand on pense, la même chose.
On n'imagine pas une seconde Tom Selleck, mais alors que peut-être qu'il aurait été formidable. On ne sait pas, mais l'acteur, c'est lui qui va tout faire pour vendre le personnage.
C'est pareil. Mais c'est pour ça aussi hein, que je disais, ça peut flirter avec le nanar, c'est si tu prends pas le bon acteur.
Exactement.
Si tu prends Tom Selleck, ouais. ça se rapproche déjà plus d'un nanar.
Regarde juste après Indiana Jones, qu'est-ce qui est sorti, une production canon, Alan Quaterman et Emilio Roy Salomon. Ouais. Je peux te dire que c'était un peu bien pourrave et avec un acteur.
Avec Sharon Stone.
Et c'était Richard Chamberlain.
C'était pas si nul que ça.
Et ouais. Et avec Jonathan Rhys-Davies qui joue Salah, le traître. Le traître, il est parti jouer dans les Alan Quaterman.
Et tu vois, sans le génie de Spielberg, sans le génie d'Harrison Ford, tout de suite c'est beaucoup moins bien.
Oui.
Et bien, tant qu'on est dans le génie, continuons à y être avec les Goonies de Richard Donner. Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de la côte ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants, il ne se passe jamais rien ici, soupira un jour l'un d'eux, mélancolique. Mickey Walsh, 13 ans, venant de prononcer une de ses phrases fatidiques qui annoncent parfois les aventures les plus étranges, les plus folles et les plus amusantes. Ma question anecdote sur le film, et je l'adore, je l'adore. Après le tournage, Sean Astin n'a pu garder la carte au trésor. Savez-vous où elle repose maintenant, cette carte ?
Dans ses toilettes ?
Non, mais c'est ce genre-là. En tout cas, je n'attends pas un lieu précis. Hein. Donc si vous me dites au musée, par exemple, c'est pas le cas. Donc c'est pas ses toilettes, mais pas loin. On est sur le même genre d'idée.
Sur Terre ?
Ah, je sais même pas dire si elle est sur Terre.
Ah,
je sais
ouais.
pas si c'est un bon indice.
Il l'a enterré dans son jardin ?
Non.
Il l'a enterré avec son père.
Il l'a balancé, il l'a balancé à la main.
Non, mais...
Il l'a envoyé dans l'espace.
Alors lui, il aurait bien aimé encore la voir, mais il l'a plus.
Ah.
On lui a volé ?
On lui a pas volé, c'est plus...
C'est les impôts ?
Ça. C'est qu'en gros, sa mère, qui est l'actrice Patty Duke...
Elle l'a jeté.
Duke, pardon. Elle l'a jeté. Non. Elle pensait que c'était un vieux bout de papier, elle l'a jeté à la poubelle, donc... La carte n'est plus. Ce
horrible.
Truc qui vaudrait une fortune. Hein. Ouais. Eh ben non, c'est tombé avec la Voix du Nord.
Ah, la tristesse.
Octobre. Ah ouais.
C'est comme un ticket de l'auto gagnant qui est passé à la machine.
C'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça. Donc ouais, donc c'est un petit peu triste. Donc la carte de la carte est à la poubelle. Donc les Goonies qui, je pense, est une Madeleine de Proust partagée, je pense, entre Tristan et moi. Et je me demande si Antoine c'est aussi. Ouais, Antoine aussi. Donc j'ai fait souffrir Tristan. Sur Indiana Jones, je vais le laisser ouvrir le bal sur les Goonies.
Eh ouais, bah comme tu l'as dit, c'est ma Madeleine de Proust. Hein. Ça n'a pas pris une ride. En fait, le truc, c'est... Mais non, mais c'est trop bien, c'est trop bien.
Mais je suis d'accord,
c'est génial,
moi, ça a pas
putain,
pris une
ride. Mais c'est génial, c'est génial. On s'en fout que ça ait vieilli visuellement un tout petit peu. Enfin, franchement, ça fait toujours le taf. Et moi, j'ai toujours rêvé de vivre la même aventure, en fait. C'est pour ça, c'est ça qui m'a fait aimer les trésors de
bah,
pirates.
C'est un gars en web, il y a moins de croûte.
Dès le début, ils ont les
Non, mais en fait, je me suis trop identifié à ces gosses-là et j'ai toujours aimé les trésors de pirates. Alors à côté de ça, moi, j'avais Hook, j'avais toujours aimé les pirates.
C'est parce que tu aimes l'argent.
Peter Pan. Ouais, exactement, ouais.
C'est clair, t'es vénal.
Mais c'est trop bien. Il y a les méchants parfaits, les Fratelli qui sont en même temps loufoques et en même temps flippants. Tous les personnages sont bien. Enfin, il y a tous les rôles. Il y a les gadgets de Data. T'as les boum, je t'attrape. Moi, j'adore les pièges.
On a peur aussi, hein.
Mais on a peur, évidemment. Il y a le piano qui fait flipper avec le sol qui se dérobe. Et j'adore ce film. Je le revois toujours avec émerveillement. Et il y a un vrai problème de base. Et c'est la maison des Goonies qui va être vendue. Et eux, ils veulent sauver la maison. Enfin, il y a un truc. Il y a un truc très cool, il se lie avec les grands, avec les ados aussi. Enfin, j'adore ce film.
Et c'est la moi j'ai cette VHS en tête, au-delà du goût et de la saveur de cette Madeleine de Proust. Le visuel aussi est là, c'est cette cassette avec le dessin où il y a écrit Steven Spielberg plus gros que Richard Donner parce que bah voilà, ça vendait plus. Ouais. Et du coup, toute mon enfance, j'ai cru que c'était un film de Spielberg. Et même si bon, il y a la patte, hein, il y a la patte en bling, il y a tout. Et
qui n'a pas rêvé de trouver une carte au trésor dans son grenier, quoi.
Ah bah oui.
Mais carrément.
Moi je vivais dans un papier, donc c'était mal barré.
Moi j'ai trouvé le tétanos dans mon grenier. Le tétanos.
Le tétanos.
J'ai découvert le cadavre de mamie.
D'ailleurs, en parlant de mamie, bah, je vais dire quelque chose qui a aucun rapport. Est-ce que vous savez pourquoi Data, quand il est dans la grotte, il crie Holy shit, mais shit, il le dit S-H-I-T au lieu de dire shit le mot. Pourquoi il a pas dit le mot shit?
Parce que c'est ça fait partie des mots qui sont interdits par le ça, CSA hein. américain, non?
Ouais, non, le CSA censure. Était OK. Le CSA était OK. Mais il y a quelqu'un qui était moins OK avec ça.
Ah bah Spielberg. L'acteur, il voulait pas le dire.
Pas Spielberg. L'acteur voulait pas le dire, mais pourquoi? Pour qui? À qui il avait promis de pas dire
à
de
quoi?
À sa maman.
Oh, c'est
à
beau.
À sa petite maman, il avait dit bah non, je dirais pas, donc il a dit ça.
C'est mignon. C'est le gamin qui joue 2001, non?
Ouais, tout à fait. Donc il venait de faire Indiana Jones, et donc il est arrivé sur les Goonies. Mais voilà, je trouvais cette anecdote mignonne tout plein.
Alors que Fouad, lui, il joue demi-molle dans un autre film.
Et tout de suite, une question de Madame Fion de Limoges. L'instant grosse tête de David, il apparaît une fois par émission, mais à chaque fois, il fait du bien.
C'est gras, ça tâche. Voilà, c'est rigolo.
J'ai encore commencé l'émission en disant, bon, ce coup-ci, je dis pas de conneries, je dis pas de vulgarité, mais ça vient tout seul, je peux pas m'en empêcher, je suis désolé.
Non, mais il ne faut pas lutter contre
on
est
face sa nature. Mais oui. Antoine, donc tu disais que toi aussi c'était une Madeleine. On rappelle, on est exactement de la même année, Antoine, Tristan et moi. Donc, voilà, c'était une VHS qu'on a eue dans nos bibliothèques.
Oui, bah c'est trop bien. Bah, je rejoins Tristan sur ce fait. Bah, c'est des enfants qui, voilà, on a tous envie de vivre ça. C'est la bande de potes très archétypée. Hein, que moi, je trouve aussi que c'est important quelques archétypes, ouais, surtout dans les films d'aventure. Ça permet d'avoir des personnages bien délimités et ensemble, ils vont progresser chacun de leur côté pour ils vont trouver un trésor, quoi. Ils ont une carte, ils prennent leur petit vélo, ils vont jusqu'à une grotte et tout, et les méchants sont
ils trouvent géniaux. Des mecs morts dans des congélos.
Non, mais c'est génial, cet échange générationnel, les grands qui décident enfin de jouer avec les petits aussi. Ouais. Il y avait un peu toute cette imagerie-là que moi, qui est importante, je pense, que l'imaginaire, en fait, c'est pas une question d'âge et qu'on peut se laisser porter par les aventures à n'importe quel moment. Et c'est vraiment un film que j'adore. Tout le décorum est génial. Ils ont des vraies épreuves. Ils ont du courage. Et ça fait plaisir de voir des gamins de 8 ans qui ont plus de courage que moi, quoi.
c'est clair, mais ces gamins, du coup, t'es derrière eux, quoi, parce que tu te dis, mais ils sont capables de tout, mais en même temps, il peut tout leur arriver. C'est aussi l'équilibre sur lequel repose le film.
Mais il y a tout
un
côté aussi de l'enfant qui grandit et qui veut arrêter avec ses bêtises, histoires de trésors, de course-poursuite et tout, le baiser dans la caverne. Enfin, il y a tout aussi un côté de grandir, quoi.
Puis c'est très drôle, hein. Dès le début, c'est très drôle. Moi, ça me fait marrer quand ils font tourner en bourrique la femme
servante espagnole.
Quand même Data avec tous ses gadgets et ses inventions, quoi.
Puis Choco qui fait des révélations quand il va se faire mettre les doigts dans le mixeur, là. Cette anecdote est géniale. J'avais fait un sac de vomi, je l'ai jeté, enfin bref.
Mais la musique de Data, elle est folle aussi. Hein. Dès qu'il commence à utiliser ses gadgets.
Ça fait un peu... ça me rappelle, j'allais dire, Tony la malice, je sais pas pourquoi.
Un peu, d'accord.
Ça fait un peu Inspecteur Gadget.
Ouais. On va passer à Béa, donc qui dit Béa dit instant box-office. Ce film a aussi bien marché en France. Combien y a-t-il eu d'entrées en France pour ce film, Béa?
Ça a moins marché qu'Indiana Jones.
4 millions 5. Fouad
3 250 000.
3 250 000, Antoine.
4 320 000.
4 320 000. David.
3 500 000.
Et Tristan.
2 200 000.
C'est Tristan qui l'emporte et vous êtes toutes très loin. C'est 1 316 861.
Ouais, c'est ce que je me disais.
Ce qui est un bon score pour un film plutôt pour les jeunes. Hein. C'est quand même un film pour un peu pensé pour enfants finalement, hein. Même si on le regarde avec plaisir. Hein. du coup, Béa, voilà. J'ai donné des gens qui avaient un avis laudatif sur le film. Maintenant, toi, t'es un peu plus nuancé, je pense. J'emploie des mots compliqués.
Moi, je suis très triste parce que c'est un très bon souvenir d'enfance. Et le fait, je pense, de ne pas l'avoir revu régulièrement, là, en le revoyant, je trouve que ça a quand même vraiment vieilli. Et du coup, ça me rend triste parce que ça faisait partie des bons souvenirs d'enfance, en fait.
Est-ce que ton enfance est un peu morte, du coup, là?
N'exagérons rien, j'ai tellement d'autres bons souvenirs que ça va.
ton tout va bien.
Mais non, mais je. Mais après, je sais pourquoi j'avais un si bon souvenir, parce que comme vous le disiez, c'est ce côté le passage. C'est les enfants qui sauvent les adultes en fait à la fin. Ils se battent en fait pour pour un truc très sérieux qui est de perdre une maison, se retrouver arraché, déraciné de son lieu de vie. Donc c'est un.
Avant que Stéphane Plaza existe.
Voilà, donc c'est un truc.
Il fallait trouver du diamant, tu vois.
Ils
pas
sont obligés de braver les interdits, de s'émanciper. Donc il y a vraiment effectivement, Tristan l'a dit, cette notion de passage, de transition en fait, et qui est super intéressant. Et donc je comprends pourquoi je l'ai gardé comme quelque chose de très doux et de très important. Et néanmoins, en le revoyant, je me suis dit oulala, c'est ça a quand même vieilli, ça crie beaucoup. Puis n'exagérons rien, ils ont quand même tout piqué à Stranger Things.
Excuse. Ça, c'est une bonne phrase de conclusion. J'hésite à donner la parole à David ou à Fouad. Donc David et Fouad, en même temps, vous allez me dire dès que j'ai fini ma phrase le plus grand nombre. C'est parti.
28.
30.
Wow. Voilà, donc c'est David qui commence.
Meilleure séquence de toute l'histoire de la radio. Je veux jouer à ce jeu.
Vas-y, à toi l'honneur, David.
David, tu aimes ce film?
Oui, bah moi je trouve que c'est très chouette. J'adore la musique, le casting, il est parfait. Il y a un rythme de dingue. Et ce que j'adore surtout, c'est la production design. T'as l'impression qu'ils se baladent dans un parc d'attractions, quoi. Et les gamins, ils ont dû s'éclater à tourner le film, parce que t'as même carrément la scène du toboggan. Bon, et je me dis, ils ont construit un toboggan exprès pour le film, et les gamins, ils se sont éclatés, quoi.
La caverne avec tous... le bateau, elle est magnifique.
Ouais, non, mais c'est génial.
Et justement, on a tous cette anecdote, je pense, sur le bateau que les gamins l'ont pas vu avant la scène où on l'a tourné, pour que l'émerveillement soit le plus naturel possible.
Il est en taille réelle en plus.
Et ouais, ils l'ont emprunté.
Arakam le Rouge.
Attraction Los Piratas de Mel Ward.
Et après, moi, ce qui me fait trop rire, c'est que c'est vraiment un film typique des années 80. Et donc, du coup, t'as de la méga violence, t'as des gros mots et des blagues un peu osées, mais je trouve que.
T'as du bully.
Quand tu regardes le film en VF, c'est dingue, ils font que s'insulter tout le temps. Et après, en même temps, t'as aussi du slapstick avec des bruitages cartoon, et en même temps, t'as des méga grosses émotions familiales à la fin, tu vois. Et c'est ce mélange-là qui marche très bien et qui est vraiment mortel, quoi. Après, j'aime le film, mais pour moi, il est beaucoup moins culte que pour d'autres, parce que je l'ai découvert très tard. J'ai dû le voir pour la première fois.
Ouais, c'est ce que Béa disait un petit peu.
J'ai dû le voir pour la première fois à 20 ans. Et donc, du coup, je vois...
À 20 ans, rien n'est impossible.
Oui, mais tu vois...
C'est un peu tard.
C'est ça.
C'est un peu tard.
J'ai traversé les jours en chantant, mais je me suis dit...
Mais tu t'identifiais plus à Sinoc qu'à Choco.
Voilà, c'est ça. Déjà physiquement. Mais tu vois, c'est un genre de film que j'ai découvert trop tard, comme Le Secret de la Pyramide, haute production Amblin. Mais voilà, quoi. Là, le revoir...
Mais je l'ai pas vu, moi, celui-là.
Ah, il est bien.
Le revoir, c'est toujours aussi cool. Et c'est un film qui ne bouge pas, quoi. Il est d'une colitude vraiment mortelle. Ouais. Donc voilà, vraiment, c'est pareil, c'est un film que je prends vraiment plaisir à revoir de temps en temps. Et vraiment, ça fait plaisir. Une émission avec encore plein de bons films, c'est cool.
Bah ouais, bon, c'est pas du tout, c'est impossible pour des raisons évidentes, mais j'adorerais que Carlotta Film fasse une édition spéciale. Mais bon, vu que c'est pas eux qui, c'est impossible. Fouad, j'aimerais bien un truc comme ça sur les Goonies.
Tu appelles un mec, appelle.
Non.
Demande.
J'appelle, moi j'ai de l'influence. Non, mais il y a un Rocky Rama sur les Goonies.
Oui.
Oui,
il est très bien.
Que je crois Tristan m'a offert.
Ouais.
Je crois. Si je dis pas de bêtises. Fouad.
Vous avez tout dit. Donc, vous avez tout dit et très bien dit. Hein. Donc, effectivement, ouais, c'est moi aussi. Alors, c'est ma petite Madeleine. C'est pas ma plus grosse Madeleine. C'est pas ma meilleure Madeleine. Mais j'ai toujours plaisir à le voir. Parce que c'est vrai qu'il a bien vieilli. Il a bien vieilli. Mais, somme toute, c'est un film qui reste très, très plaisant à regarder.
Et là, elle est toute seule à dire qu'il a mal vieilli.
C'est clair, la nulle. Tout le monde l'a nulle.
Non, mais moi, je suis pas loin.
Je suis avec toi, Béa.
Moi, je rejoins Béa là-dessus. C'est vrai que c'est un film qui a vieilli, mais... Ça
reste
plaisant. Il
dit l'inverse maintenant, lui.
Mais je viens de le dire. Je viens de le dire un instant. Mais c'est que non, mais c'est vrai qu'il a. C'est pas ma meilleure Madeleine, mais c'est toujours plaisant. Il est toujours plaisant à voir parce qu'effectivement.
C'est ta meilleure Madeleine ou c'est pas ta meilleure Madeleine?
C'est pas. Non mais j'ai dit c'est pas ma meilleure Madeleine.
Ah oui, d'accord.
J'ai dit c'est pas ma meilleure Madeleine et que là pour le coup c'est un film que je vois maintenant avec des yeux d'adulte. Contrairement à L'Arche perdue, j'ai les yeux de l'adulte attendri On va dire ça comme ça.
T'es du côté des mecs qui veulent faire un parc de golf, en fait.
J'ai toujours...
Capitaliste
D'ailleurs, elle est...
Quad, il est promoteur immobilier.
Immobilier, vis-vis la galette.
Non, non, mais c'est, attention, c'est toujours plaisant à voir, mais... Alors, moi, je retiens aussi deux trucs de ce film-là, c'est ceux qui jouent les méchants. Et en fait, les Goonies, c'est le film où j'ai découvert, après avoir vu les Goonies... le talent des acteurs qui jouent les méchants, c'est-à-dire Robert Davi et Joe Pantoliano, qu'on a vu dans Matrix, qui a joué aussi dans Pierre du Soleil, qui joue dans Bad Boys, Joe Pantoliano. Donc, ce sont deux super acteurs qui sont vraiment savoureux dans ce film-là. Et pour aussi l'anecdote fun fact, l'actrice qui joue la maman de Sean Astin, ouais. Marie-Hélène Traynor, on la retrouve dans la poursuite du Diamant Vert. Ouais. Et c'était l'épouse de Robert Zemeckis à la ville. Voilà, je ferme la parenthèse people.
Bah, Robert et Steven se sont quand même pas mal servis dans leur équipe.
Ouais, ils se merdaient pas. Hein, voilà.
Ou alors ils chopent leur tactique.
Du rapprochement.
Pas trop.
Ouais. Voilà, il y a eu de la promotion au canapé. Hein. Et donc,
mais cela ne nous regarde pas.
Hein. Cela ne nous regarde pas, bien évidemment. Non, non, c'est un film qui est très... Voilà, qui est délicieux, savoureux, mais que je regarde maintenant avec des yeux d'adulte attendri. Et il ne faut pas oublier que c'était Richard Donner à la barre.
Ouais.
Qui était Richard Donner, le bon Richard Donner. Dick, oncle Dick, qui a fait les armes fatales. Et que Spielberg a choisi parce qu'il était particulièrement brillant avec les enfants. C'était quelqu'un qui était très fort.
C'est un gars qui s'inscrit complètement parce que je trouve que ça fait partie de ces réalisateurs qui savent, avec peu de choses, être très précis. Donc au final,
exact.
Les films, tu les absorbes comme ça, quoi, de manière
tout
très facile. Tout ce qu'il a fait, je trouve. Donc ma question, on a parlé du fait, à part pour Béa, que ce film avait plutôt bien vieilli. Moi, je vais vous poser la question, est-ce que le film d'aventure, c'est le genre qui vieillit le mieux? Ma question, elle est basée sur le fait que l'aventure, c'est tellement quelque chose de prenant, d'absorbant, de dépaysant, que finalement, tu peux l'avoir 50 ans après que le film ait été réalisé, tu restes dans la jungle, dans le truc, t'es pas dans un défi technologique. Donc, est-ce que justement, c'est pas le genre qui vieillit le mieux? Là est ma question.
Effectivement, je pense que c'est un genre qui vieillit bien, parce que même si moi, j'ai trouvé que ce film avait vieilli, je pense que des enfants qui aujourd'hui regardent les Goonies vont prendre beaucoup de plaisir à le regarder. Donc,
C'est pas idiot.
Comment?
C'est pas idiot, je dis.
Bah merci, mais je le dis pas. Je prends le compliment, je ne dis pas que des bêtises.
L'inconvénient d'enregistrer à distance, t'aurais dit du bruit, mais là...
Non mais tu vois, j'étais interloqué, je dis pardon.
Non, non, mais c'est pas, je trouve ça pas con, je veux dire, c'est clair, je le vois bien le montrer à mes nièces, tu vois. C'est...
Voilà.
Alors oui, ça vieillit plutôt bien, par contre, il faut à la base un bon budget au niveau décor et effets spéciaux, parce que parfois, il y a des décors carton-pâte sur certains films.
On en revient,
est-ce que les enfants...
mal, mais ça
alors,
donne
ça
du
dépend.
Charme après.
Mais
hein,
voilà, mais est-ce que les enfants, même en voyant du carton-pâte aujourd'hui, est-ce qu'ils vont vraiment pas être bien? Parce que franchement, tu vas dans n'importe quel parc d'attractions aujourd'hui, les décors sont en carton-pâte et ça passe très bien.
Bien sûr.
Enfin, donc... Je sais pas, je suis pas sûre que ce soit gênant.
Au contraire,
t'es pas idiot. Hein.
Peut-être que les nouveaux films en mode numérique à donf, tu vois, genre un film comme La Momie 2, tu vois, c'est un film d'aventure. Les effets spéciaux ont extrêmement mal vieilli. Et donc, du coup, maintenant, c'est irregardable. Tu vois, le roi scorpion à la fin du film, c'est irregardable.
Parce que la Momie 2, typiquement, il y a des effets spéciaux qui sont aujourd'hui un peu qui tâchent. Mais il y a le rythme, il y a les comédiens, il y a l'humour, il y a les acteurs. C'est une alchimie, en fait. Un film d'aventure, c'est une alchimie. C'est une alchimie entre l'histoire racontée, entre les comédiens, entre les personnages, la qualité des personnages. Et moi, je trouve que des décors en carton-pâte, ou même des peintures, le plan final des Aventuriers de l'Arche perdue, c'est une peinture. C'est peint de A à Z. Ils ont filmé un gars avec un chariot, mais tous les containers, les caisses en bois, c'est de la peinture. Et ça passe comme une lettre à la poste. Et
non,
parce que c'est une alchimie.
Il faut du paysage, il faut un budget quand même, voyage dans le film.
Oui, voilà. Bien sûr, on l'a. On l'a dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, on voyage, etc. Mais moi, je trouve que les décors font travail, quand ils sont bien faits, stimulent l'imagination. Et des beaux décors sont des décors qui te stimulent l'imagination, en fait.
Ouais, tu vois au-delà de
ouais, c'est ça. Tu sais que c'est du faux.
Mais c'est l'immersion,
c'est
ça.
C'est ça, cette petite imagination.
Antoine.
Moi, je pense que c'est intemporel, en fait. Même si ça vieillit peut-être dans l'image, ça vieillit pas dans l'histoire, dans le scénario. Il y a toujours cet émerveillement de se dire, il y a des choses cachées sous nous. Il y a des choses qu'on peut trouver si on prend le temps d'être curieux, d'aller chercher un peu plus loin. On peut tomber sur des trucs incroyables, quoi. Et être embarqué dans des aventures. Et je pense que c'est un peu ça que ce sentiment que transmet, enfin que en tout cas moi ça me transmet les films d'aventure, c'est que eh ben en fait la vie elle s'arrête pas à ce qui nous entoure, mais il y a tellement de choses qu'on connaît pas et qu'on pourrait découvrir.
Enfoui dans le passé.
Enfoui dans le passé, donc bah voilà, donc même
ou
un
dans
film
dans l'espace.
Qui
dit... Indiana Jones 4.
Voilà. Tu vois, il y a tellement de trucs à aller chercher que je pense que ça peut pas forcément vieillir parce que ça rappellera toujours, enfin pour moi, ça viendra jamais, ça viendra toujours toucher cette corde sensible de il y a des choses qu'on peut encore apprendre, découvrir et qui vont nous amuser, ne serait-ce que le temps d'un voyage.
Et moi, je pense que tout ce que tu as dit là, c'est une des dimensions qui fait que justement ça vieillit pas. Et l'autre dimension, c'est un peu lié comme au cinéma fantastique, c'est dès lors que ça touche pas à notre quotidien du tout, ça vieillit mieux. Je trouve que c'est des sujets qui vieillissent mieux parce que voilà. David, pour conclure sur la question.
Ah, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Enfin, l'aventure, c'est l'aventure.
Et ben, c'est une très, très jolie conclusion. Et ben, justement, passons à une histoire à l'eau de rose, comme cette chanson, à la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis. Bobby, et ben, c'est bien une des rares fois où je te suivrai pas, Bobby, dans tes démarches. Une jeune romancière à succès part en Colombie à la recherche de sa sœur qui a été kidnappée. Accompagnée d'un aviateur quelque peu blasé, elle affrontera les dangers d'une jungle inhospitalière pour récupérer un fabuleux diamant qui servira de monnaie d'échange. Ma question sur le film, on le disait, Robert Zemeckis a voulu se mettre dans la tradition d'Indiana Jones, il a donc voulu rendre hommage à Steven Spielberg dans le film, il l'a fait à l'aide d'un easter egg, lequel est-ce? Comment a-t-il rendu hommage à Steven Spielberg?
Est-ce que ce serait pas avec la carcasse d'avion, il n'y a pas un truc à l'intérieur?
Alors c'est pas l'avion, c'est pas la carcasse d'avion, mais c'est un autre moyen de transport utilisé dans le...
Ah, la Jeep?
Non. Et l'hommage qui a été rendu, c'est aux Dents de la Mer. Donc ça va aider sur le moyen de transport.
Ah bah du coup, c'est le bateau.
Ouais. Qui s'appelle Orca, comme le bateau de Brody et Quint dans
les
Dents de la Mer.
Le bateau des méchants.
Un bateau avec lequel Johan se rend sur l'île.
Ah, d'accord.
J'ai pas fait gaffe.
Donc c'est un petit easter egg, voilà, sympathique. Hein, comme ça, voilà, on a copié le concept de quelqu'un et on dit, ah tiens, ça va compenser. Alors, non, pardon, je rigole. J'attaquerai jamais Robert Zemeckis de base, mais surtout pas quand je suis dans la même pièce que Fouad. Ce film, est-ce que, David, tu l'aimes?
C'est
Et quelle place a-t-il dans ta cinématographie? C'est la question
c'est
habituelle.
C'est compliqué. J'aime bien le film, mais vraiment, de façon... ça reste un bon moment. Tu retrouves le côté habile faiseur de Zemeckis, t'as les décors naturels, t'as le charme suranné des pulps des années 30, mais c'est vraiment, pour le coup, ultra typé années 80, au maximum du truc. Rien que la musique, tu te dis, je sais où je suis, tu vois. Mais
c'est un objet d'histoire du cinéma. Quoi.
Mais après, ça reste sympa, t'as un super cast. Moi, j'aime bien Michael Douglas avant qu'il fasse ses thrillers érotiques. Kathleen Turner, que tu vois plus du tout maintenant. Pareil pour Danny DeVito. Non. Qu'est-ce qui devient Danny DeVito? Moi, j'adore Danny DeVito. Pourquoi on le voit pas plus souvent? Et c'est un film qui a vraiment extrêmement vieilli, mais qui reste assez plaisant. Quand tu regardes maintenant, tu te dis, c'est difficile.
Elle
est en train de s'énerver. Mais c'est difficile de se dire que ça, c'était un méga blockbuster, un méga succès au box-office, quoi. Maintenant, t'as l'impression de voir un truc complètement désuet.
On parle pas de box-office tout de suite, on attend Béa.
Mais voilà, j'aime bien son charme désuet. Le film est un peu macho, c'est du buddy movie d'aventure très premier degré.
On peut retirer un peu, hein.
De quoi?
Pour l'époque, il était peut-être un peu macho. Aujourd'hui, avec la vision d'aujourd'hui, il est très macho.
Il est écrit par une femme. Hein,
une femme.
Pourtant, écrit par une femme.
Plus dingue de se dire ça, du coup. Mais voilà, c'est très premier degré avant que ça devienne le méta des années 90. Mais bon, quand tu regardes ça après Indiana Jones, c'est compliqué, quoi.
Ouais, c'est ça un peu. C'est toujours ça qui est.
Mais alors, ce qui est fou, c'est que ça a été, c'est très comparé à Indiana Jones, alors que le script de La Poursuite du Diamant Vert a été écrit avant celui de. Avant celui des aventuriers de l'Arche perdue, 2 ans avant.
Mais pour autant, parce que Robert Zemeckis accepte de dire qu'il est directement influencé lui dans sa réalisation par Indiana Jones. Enfin, ces deux films avec des vases communicants. Béa, parlons box office. C'est un beau petit succès au box office. Les trois films qu'on fait ce soir sont des vrais succès au box office français. Combien d'entrées, Béa?
5 millions.
Plus, là, hein. Tu sais
plus. Non, 4 millions 5. Je reste sur mon 4 millions 5.
4 millions 5. David.
3 millions 5. Je dis la même chose depuis le début.
Tristan.
2 millions 7.
Antoine.
3 millions.
3 millions. Fouad.
2 920 000.
Et c'est Antoine qui l'emporte. 3 157 966. Donc voilà pourquoi tout ça. 1 million 3 les Goonies. 3 millions 100 la poursuite du diamant vert. Et donc 6 397 Indiana Jones. Quand on parle de succès, il y a aussi les gros succès. Indiana Jones, c'est un très gros succès au box-office. En plus de tout ce qu'il est devenu après. Béa qui, voilà, tu as déclaré dans l'épisode 9 de Parlons Péloche, à la poursuite du diamant vert, dans mon esprit, est mieux
ouais,
qu'Indiana Jones.
Non, qu'est-ce que t'as dit? Bah alors, ouais. Mais
tu l'as dit. J'ai la preuve sonore.
C'est vos propos, mademoiselle.
Je l'assume, en fait. J'adore ce film, mais là pour le coup, je suis tout à fait consciente que c'est irrationnel et qu'évidemment Les Aventuriers de l'Arche Perdue est un meilleur film. Mais en termes de plaisir, je pourrais pas vous dire pourquoi. Enfin, si je sais, je pense que c'est l'histoire, la romance qui me plaît. J'ai adoré ce film à la sortie. J'aime tout, j'aime le trio, enfin le Kathleen Turner, Michael Douglas et Danny DeVito, qu'on retrouve d'ailleurs après dans La Guerre des Roses de Danny DeVito. Je trouve que c'est un trio qui fonctionne mais parfaitement en termes de jeu d'acteur. Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, je vais faire ma fouette, mais Kathleen Turner, en fait, elle s'est très bien entendue avec Zemeckis, elle l'a retrouvée plus tard, mais ils étaient un peu en bisbis sur ce film parce qu'elle lui reprochait d'être beaucoup plus sur la réalisation, tout ça, plus que sur la direction d'acteur en tant que tel. Donc voilà, gros succès, mais finalement, la Fox croyait pas trop à ça, et finalement, ils croyaient tellement pas qu'ils avaient viré Zemeckis, devait normalement faire Cocoon, et finalement c'est Ron Howard qui en a fait ce qu'il en a fait, mais voilà, c'est je trouve que ce film, il est trépidant, il est drôle, il est rythmé, il y a pas un temps mort. Voilà, il y a eu même une suite, le Diamant du Nil, bon, qui est pas
qui a moins marché,
en plus il est moins bien parce qu'il est c'est pas Zemeckis qui l'a fait, je sais même plus le nom du mec. Après, c'est toujours bien de revoir le trio, mais voilà, il y a romance, action, aventure, humour. Je trouve que c'est un super cocktail qui marche. Et oui, allez, je vous le concède. Ça a un peu vieilli, notamment sur les rapports homme-femme, tout ça. Mais Douglas, il est trop bien là-dedans. Enfin.
Bah, il faut aimer le délire, en fait. Mais je comprends exactement ton point de vue, finalement. Et c'est ça qui est beau dans le cinéma. C'est Lewis Teague qui a fait.
D'accord,
la suite.
Tu vois, j'aurais pas retrouvé, ouais.
Tristan, sur La Poursuite du Diamant.
Ouais.
On n'a pas passé un bon moment, Tristan,
bah,
ainsi.
Bah, alors, pourtant, je l'ai revu avant Indiana Jones. Je l'avais jamais vu. C'est le seul des trois que j'avais jamais vu. Ouais. Donc, j'ai découvert ça. Écoute, c'était sympathique. En fait, c'est un petit film popcorn. C'est pas nul, je me suis pas non plus ennuyé devant le film. Par contre, voilà, tu sens très bien que c'est un sous Indiana Jones, clairement. Je trouve que Michael Douglas, il a pas de nuance, il a pas de perso. Il apporte pas grand chose à part des bras et un gun, en fait, dans le film. Il y a un peu de sensualité.
Voilà, le mec
après,
un peu rustre, quoi.
Après, les deux sont magnifiques. Ils sont hyper beaux. Ils sont dans la fleur de l'âge. Il y a une super lumière. Je trouve que la photographie est vraiment belle. Je sais plus dans quel pays.
Ça fait très Colombie. Très éco.
Colombie aussi, ça, ouais.
Au Mexique.
Colombie.
Enfin.
Mais par contre,
c'est tourné au Mexique.
Par contre.
T'imagines dans les romans à l'eau de rose que justement elle écrit, quoi. C'est vraiment.
Ouais, exactement, exactement. Ça ressemble à ça. Et il y a une scène très drôle où les méchants dans le village là reconnaissent la.
Ouais.
L'écrivaine. Ouais. Ouais, ça m'a fait beaucoup rire. Excellent, vraiment, ça m'a fait.
Ouais, ça c'est très drôle. Ouais,
donc il y a un peu d'humour. C'est un peu saupoudré d'un peu d'humour. Bon, par contre, moi, je trouve qu'il y a un gros problème. Ça veut faire du Indiana Jones, mais par contre, il y a aucun putain de piège, quoi. Il dit, attends, c'est quoi sur la carte là? Ah, c'est une cascade. Ah bon, bah le diamant, il est derrière la cascade, quoi, dans un trou. Bon, ok, super, quoi. Il a trouvé le diamant. Enfin, tu vois, il t'a pas peur pour eux, quoi. Il y a pas de.
Alors que dans le tournage, pendant le tournage, il y a eu des glissements de terrain, qui fait que les deux ont eu des vrais gros accidents, quoi.
C'est mais ça ils auraient peut-être dû les filmer, tu vois, ces glissements de terre.
Bah oui, bah oui, de ouf. Mais Catherine Turner, c'est, je sais plus ce qu'elle a eu. Je sais pas si elle s'est pas fracturée ou elle a eu un vrai souci.
Ouais.
Ils se sont beaucoup, ah, ils se sont fait mort par des serpents les deux.
Ouais,
plus,
mais tu vois, du coup, je trouve ça dommage. T'as pas peur pour eux, quoi, dans cette nature un peu effrayante. Le diamant est derrière la cascade dans un trou. Bah,
ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est... Ouais.
Il y a une carte, il y a une carte pour trouver un putain de diamant, il le trouve en deux secondes, quoi. Je trouve ça dommage.
Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, la peur qui est un ingrédient hyper important pour être impliqué est peut-être un peu trop absente.
Mais c'est peut-être
ouais.
parce que la romance prend beaucoup
ouais,
de place.
Hein.
C'est,
ouais.
c'est plus une romance.
Oui, bah, je vais voir une comédie romantique, oui, si voilà. je vais voir de la romance.
Oui, voilà.
C'est une romance en aventure, quoi. Comme toi et moi, Béa, tu te souviens sur l'air d'autoroute de... Je sais pas de blague. Fouad.
Ouais, je trouve que c'est un peu injuste de dire que c'est du sous Indiana Jones. Moi, je trouve que c'est pas du tout le même film. C'est, ça propose pas la même chose. En toile de fond, effectivement, il y a une aventure. Mais c'est une femme écrivain. Ou écrivaine, on dit, je crois.
On peut dire les deux, mais écrivaine commence à l'emporter maintenant.
C'est une écrivaine bah, qui écrit à succès. Hein, qui écrit des romans à l'eau de rose et qui finit par vivre ce qu'elle écrit dans ses bouquins. Donc je trouve que c'est plutôt rigolo, plutôt sympa comme
Attends,
concept.
Qui a réalisé Fouad déjà
hein,
qui est le réalisateur?
C'est Robert Zemeckis.
Ah oui, ok, ouais, d'accord.
Pourquoi tu...
Non, il pense que ça influence son discours, je crois.
Non, pas du tout. Mais non, parce que effectivement, on t'enlève la musique. La musique, c'est une catastrophe. C'est ouais, vraiment une catastrophe. Hein.
Bah, ça l'était peut-être sûrement pas à l'époque, mais.
Mais là, et encore, les partitions de Silvestri ont beaucoup mieux vieilli à partir de Retour vers le futur, et là, ouais. tu reconnais à peine sa touche. Mais, alors, il faut savoir que c'est un film qui est porté par Michael Douglas à la base. C'est lui qui est le producteur du film, qui a acheté les droits du bouquin, qui n'était pas censé jouer dedans. Parce qu'à l'époque, il voulait sortir de sa carrière télé, puisqu'il venait de la série télé Les rues de San Francisco, et il galérait un peu à trouver un projet d'acteur au cinéma. Et donc, il s'est reconverti dans la production. Et on ne parle pas assez de la casquette de producteur de Michael Douglas.
Ouais.
Michael Douglas a produit de très grands films, notamment Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et il galérait.
Il est à l'origine des magasins Douglas aussi. Hein.
Ouais, très certainement.
On ne parle pas non plus beaucoup de sa période de franchisé.
Et donc, non, mais il faut savoir que Michael Douglas a été un grand producteur. Et comme il galérait en tant qu'acteur au cinéma, il s'est dit, je vais faire producteur. Et apparemment, il n'arrivait pas à trouver l'acteur pour jouer dans le film. Il s'est dit, bah, tiens, je vais le jouer. Et ce qui est intéressant aussi avec ce film, c'est que c'est un film qui a fait éclore des talents qui avaient besoin d'éclore, en fait, qui étaient sur le point de clore. Ça se fait éclore des talents qui cherchaient leur chance. Et De Vito et Michael Douglas étaient des grands amis de longue date parce qu'ils étaient colocs. Ils étaient colocs quand ils galéraient en tant que jeunes comédiens. Donc, c'était des amis de longue date. Kathleen Turner cherchait aussi le projet qui allait la faire éclore. Et Robert Zemeckis sortait de deux échecs deux fours au box-office, I Wanna Hold Your Hand et La Grosse Magouille. Donc sa carrière était cramée, plus personne voulait de lui, et c'est Michael Douglas qui est allé chercher Zemeckis. Et au final, ce film, avec ses défauts, c'est le film qui a mis en orbite tous ces talents là et rien que pour ça, je trouve que c'est un film remarquable.
Puis là, on se fait un peu juge de peine et tout, alors que c'est un gros succès.
Et moi, je trouve
même que
c'est plaisant, quoi.
Et même c'est un bon succès critique aussi.
Non, mais
c'est
ouais,
pas un film
là, pour le coup,
il
faut le remettre aussi. Parce... c'est un film, par contre, oui, c'est un film des années 80. On est d'accord.
Ouais, c'est ça.
Bah,
on l'a mis dans une sélection exceptionnelle.
Bah, je trouve la scène d'ouverture assez remarquable, ouais. Parce que c'est la scène d'ouverture qui reconstitue un roman, en fait. Hein,
ouais.
Qui préfigure un peu Retour à la Future 3, parce que c'est un mini western. Je trouve que la scène d'ouverture est vraiment géniale. Et ça te donne envie de voir Zemeckis se coller à ce genre-là.
Et il le fera avec brio.
Et même là, tu vois, ça serait bien qu'il fasse un western, genre un vrai western sérieux, ouais. Quoi. C'est vraiment un touche-à-tout très talentueux. Et voilà, pour toutes ces raisons, c'est un film remarquable. Et effectivement, tu l'as dit très justement, Béa, il y a une alchimie extraordinaire entre Michael Douglas.
Et les parpaings.
Moi, je suis fou. Et ouais. Et Kathleen, moi, je suis fou amoureux de Kathleen Turner. J'adore cette actrice. Elle est extraordinaire. C'est vraiment tout ce que j'aime. Elle a un côté un peu Lauren Bacall. Elle est extraordinaire. Effectivement, c'est non seulement un duo, mais c'est aussi un formidable trio. C'est un putain de trio. Ces trois-là, en fait, je regrette qu'ils n'aient pas fait plus de films. J'aurais tellement eu envie de les voir. Pour toutes ces raisons, c'est un film qui est vraiment remarquable.
Antoine, tu vas conclure le bal.
Alors moi, je vais être mitigé, je suis un peu comme Tristan, je rejoins un peu son avis, c'est-à-dire que je l'ai pas tant vécu comme un film de voyage, film d'aventure, j'ai pas tant vécu le dépaysement, principalement parce que bah Michael Douglas, ce bon vieux Michel, il est insupportable. Moi, j'ai trouvé son personnage insupportable, et dans sa relation avec Kathleen Turner, mais globalement, quoi, c'est le mec ne veut rien faire.
Il y a juste le moment où il trouve un bijou Brigitte là où il est, en fait, pourquoi et lui offre un truc sympa quand même.
Ouais, tu vois. On sait pas quand il a fait, mais voilà. Mais ouais, c'est. Et puis, je suis un peu déçu parce que, effectivement, moi, toute cette histoire en fait de carte au trésor et de diamants, ça a l'air d'être de la pièce rapportée.
Ouais.
Honnêtement. Parce que, au final, la vraie histoire, le plan, il y aurait 12 000 moyens de le faire différemment. Elle pourrait sauver sa sœur de 12 millions de façons différentes. Et ils prennent tout le temps les mauvaises décisions, encore une fois.
Ouais.
Et
ça, c'est un peu
Et ça m'attriste, quoi.
Enfin, il y a pas mal de films d'aventure où prendre les mauvaises décisions, c'est un peu l'ingrédient
ouais,
aussi.
Le gimmick, mais bon, là, c'est pas dans le bon sens que
ouais.
je dis ça.
Ouais, ouais, ouais.
mais j'adore.
Je trouve ça con, quoi. Enfin,
voilà, un peu. J'aime beaucoup Danny DeVito. J'adore cet acteur.
Ah, génial.
Je l'ai vu en plus récemment dans un film où Schwarzenegger tombe enceinte. et je trouve que Danny DeVito est parfait dans ce film. Mais il y a plein de choses comme ça qui font que ce film, bah, il me touche pas. J'ai trouvé que le méchant était absolument pas charismatique.
Ouais, c'est sûr que quand t'as vu Indiana Jones avant.
Voilà, c'est ça. Zolo, ce général colombien, on sait même pas pourquoi.
Le cavalier masqué. Cherche.
Zorro
avec Ben Nalo.
Non mais voilà, ce film m'a laissé un peu de marre, mais pourtant je trouve que le personnage de Kathleen Turner, il part d'un bon principe, tu vois, cette écrivaine passionnée d'aventure.
Il est sympa son personnage.
Ouais, il est bien.
C'est une Bridget Jones avant l'heure un peu.
Il est bien.
C'est un peu Castle, ça aurait pu être comme Castle, c'est-à-dire elle écrit des bouquins d'aventure, donc elle sait régler l'aventure. Mais non, voilà. Elle l'a pas du tout, elle l'a
pas
subi.
Pas du tout, et elle l'a subi, et elle est vraiment en mode... Voilà, et en fait, elle est un peu dans un film du Splendid où il lui arrive que les merdes.
Ouais.
C'est
Josiane Balasco.
Voilà.
C'est Michel
côté,
Blanc.
C'est Michel Douglas.
C'est vraiment le personnage, c'est la meuf à qui il est jamais rien arrivé, quoi. Et du coup, elle se retrouve
ouais,
dans la jungle du jour.
Ah oui, c'est ça. C'est une femme qui fantasme sa vie à travers ses romans et qui, à un moment donné, va vraiment vivre ses romans. Et c'est une super, c'est une belle histoire.
Je vais laisser
Béa
conclure sur le film.
Juste parce que le titre original, alors je le retrouve pas parce que j'ai des problèmes de connexion, mais c'est
le diamant est derrière la cascade.
C'est romance, c'est romance in the stone.
Romancing the stone.
Donc voilà, je pense que
oui, effectivement, il y a effectivement, t'as raison.
Et tu fais bien de le préciser.
Parce que je sais pas pourquoi
le titre français.
Là, que des conneries.
C'est pas idiot ce que tu dis. Antoine.
Ouais, non, mais d'ailleurs, le titre français, À la poursuite du diamant vert.
Oui.
C'est-à-dire que nous, on sait tout de suite qu'il y a un diamant vert dans l'histoire et que faut le chercher. Alors que Romancing the Stone est quand même beaucoup plus marquant. T'es vraiment
sur la romance.
C'est pour les mêmes raisons que j'avais été déçu par le film.
Le titre français
dans la...
et. C'est ça.
Bon, on a dit bien assez de choses sur La poursuite du diamant vert, mais on va aller à la poursuite maintenant de notre film préféré parmi cette sélection. Lequel choisiriez-vous parmi les trois? Moi, je vote les Goonies, Tristan.
Bah, c'est hyper dur. C'est
me déçois
dur.
Pas, Tristan.
Film de cœur, je dirais les Goonies, après Indiana Jones.
Ah.
Magnifique, même. J'ai du mal.
Antoine?
Indiana Jones, c'est le crâne de Christ.
Ah, non,
Non, je faisais.
Je mets un contrat sur ta tête.
Fouad m'a tué.
Les aventuriers, bien sûr.
Bah, je vais mettre La poursuite du diamant vert.
D'accord, ça fait
mais
gagner
oui,
les Goonies
bien,
cette histoire, David.
Charme. C'est un film qui
les aventuriers.
Eh bien, c'est les Goonies qui remportent le label Parlons Péloche. Et ben ça fait bien plaisir. Mais alors même si on a fait largement quand même le tour des films des années 80, même dans ce qu'on a pu dire autour, on va quand même essayer de trouver des références parmi les références dans les années 80 avec l'avant-dernière séquence de l'émission, le You Fuck My Wife.
fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Le You Fuck My Wife, après avoir vu trois films d'aventure des années 80, nous allons nous intéresser à nos références sur cette même décennie. Alors autour de la table et sur Skype et tutti quanti, quels sont vos films d'aventure 80s de référence et pourquoi? Peut-être David, est-ce que t'en as d'autres?
Ouais,
que...
bah déjà c'est simple, les deux autres Indiana Jones, comme ça
voilà,
c'est réglé.
Voilà, oui, évidemment.
Et là pour préparer l'émission, j'ai revu Conan le Barbare.
Ouais.
Je le mettrai, hein. On fera un numéro sur les
films. Mais oui, ça il faut absolument
parce qu'il faut mettre Conan le Barbare.
Il y a vraiment de quoi faire. Ouais.
Et
ça j'adore.
Bah, du coup, tu vois, je rajoute Excalibur. Après, je vais un Carpenter que j'adore, Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Je pense que c'est un chef-d'œuvre d'aventure qui t'éclate mais tout le long.
Il est bon, ouais.
Et Mad Max 2, évidemment. Mais après, tu vois, toutes les productions Amblin de l'époque, en fait, au final, tu peux les mettre dans mes références, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment génial, quoi. Et effectivement, si je voudrais aller plus loin, la saga Uncharted, qui reprend exactement tout ce que j'aime dans les Indiana Jones, sauf
avec
que...
Avec un épisode sur le film des années 80, il parle de la saga Uncharted.
Ouais, mais...
Sur PlayStation.
On n'a pas encore parlé de série. Hein.
Mais tu vois, c'est...
Pourquoi pas ?
Pour moi, c'est... clairement une suite spirituelle à Indiana Jones, tu vois. C'est le Indiana Jones 4 qu'on n'a pas eu, tu vois.
Ouais. Et bon, voilà, donc c'est vrai qu'on est un peu sorti des années 80, mais ça va donc arriver au cinéma. Et je doute que ce sera de la ressucée au carré, finalement. Hein. Et du coup, je doute que ça puisse être sympa, mais, je serai en salle. Je sais pas pourquoi je raconte ma vie comme ça. Tristan, mon copain, qu'est-ce qu'on devient ?
Bah pareil, la trilogie Indiana Jones, les Goonies évidemment, et il y a Retour vers le futur 3 que moi j'adore dans la trilogie, qui est vraiment pour le coup un film d'aventure, de western d'aventure. Et j'en ai déjà parlé aussi, L'Enfant Sacré du Tibet.
Oui.
Avec Eddie Murphy. C'est le film d'aventure avec Eddie Murphy. Je trouve ça, j'adore ce film.
Mais ça aussi,
tout est bien.
Ça a vraiment vieilli.
Ouais, mais ça vieillit, mais c'est toujours rigolo, et la BO est ouf, et j'adore ce film. Je l'ai beaucoup vu étant jeune, et pour le coup, c'est un vrai film d'aventure, et t'as Eddie Murphy qui voyage et qui va récupérer
l'enfant sacré du tué.
Exactement, ouais, et c'est génial.
Tristan, si je peux me permettre, tu t'es moqué de David qui était sorti des années 80, mais tu l'as également fait dans ta petite sélection parce que Retour vers le futur 3, c'est années 90, qui me permet de faire une annonce à tous les gens qui, là, écoutent l'émission et qui vont au bout. D'ici, alors, après le déconfinement, le vrai déconfinement, on va faire venir dans notre ligne édito les Parlons Péloche 90s. Voilà, vous le savez pour ceux qui sont là. Donc, on va refaire encore une fois les grands genres cinématographiques à travers la décennie 90. Je vous dis clairement que je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va se régaler. Antoine, tes références.
Et ben, comme vous, évidemment, tous les Indiana Jones, les Star Wars aussi. Qui
bien sûr.
On peut parler de films d'aventure.
Oui, ouais. Évidemment.
Ça s'éloigne, mais on
mais
peut
oui,
en parler.
Oui, mais ça en fait partie. J'avais aussi envie de parler de Willow, parce que j'ai déjà longuement parlé de Willow, mais j'adore Willow, et c'est une quête. Tu peux pas faire plus une quête que Willow. Quoi.
On le mettra dans les films fantastiques années 80, normalement, mais c'est clairement aussi un film d'aventure. De toute façon, c'est toujours à cheval entre deux genres.
Bah oui, tu vois.
Un western, c'est un film d'aventure.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, et dans ce cas-là, comme disait Fouad, le cinéma, c'est l'aventure.
C'est pas faux.
C'est pas because faux. It's clean.
Laurence d'Arabie est un film d'aventure.
Mais bien sûr que c'est un film d'aventure.
Et du coup, bah, moi, j'avais Retour vers le futur 1 pour rester dans les années 80.
Ah, bien beau, bravo.
Et j'avais mis aussi Dune. Ouais. Dune, le film Dune, qui est quand même... bon, c'est du fantastique, c'est la science-fiction.
La dune du Pilat.
Bordel, quelle aventure, quoi. Ce pauvre petit gars qui va braver le destin pour aller péter les culs. Moi, je trouve ça génial.
C'est ça le synopsis à le cinéma pour mot. Fouad.
Moi, je vous propose un diptyque. John Boorman. Excalibur, 1982, qui est la meilleure adaptation de la légende arthurienne qui existe dans l'univers. Car c'est un film
avant
qui
Camelot.
Te... Camelot. En fait, Excalibur, que j'ai revu en salle il y a pas longtemps, c'est un film qui te donne l'impression d'avoir été tourné à l'époque, en fait. C'est un fan footage.
Ouais, tu te dis, il y
avait
de
l'époque.
Des cams, ils ont trouvé
des
GoPro, les gars.
C'est ça qui est fascinant. C'est un film absolument sublimissime et magistral. C'est vraiment Excalibur plus La Forêt d'Émeraude de John Boorman, toujours. La Forêt d'Émeraude qui est un très beau film qui dit beaucoup de choses. Hein, c'est un employé, c'est un ingénieur qui fabrique un barrage en Amazonie et son fils, son gamin de 5 ans, se fait kidnapper par des Indiens. Et son fils disparaît. Et qu'est-ce qui va se passer ? Des années plus tard, il cherche son fils, il le retrouve, et là...
Dans la Vologne.
Je vous laisse... je vous laisse deviner. Je n'ai pas compris la blague.
C'est quoi la blague ? Je ne sais pas ce qui est le plus horrible. C'est la vanne ou le fait que vous bidonnez comme pas possible dessus. Je ne sais pas ce qui est le pire.
Et donc voilà, regardez ça. Ajoutez-y en supplément bonus l'étoffe des héros de Philip Kaufman. Philip Kaufman qui est co-scénariste des Aventuriers de l'Arche Perdue, qui a fait aussi 2-3 bons films qui valent le détour. Et l'étoffe des héros, c'est une épopée de 3 heures sur les premiers spationautes américains. C'est un chef-d'œuvre, hein. C'est vraiment, c'est absolument sublime.
Ouais, que la conquête de l'espace, c'est une autre aventure. Mais c'est un film, c'est vrai. Un vrai film d'aventure. C'est marrant parce que quand j'ai dit que Kaamelott était la meilleure adaptation, Antoine a voulu me checker parce que il était d'accord avec moi. Mais sauf que.
Geste barrière.
Voilà, c'est une époque compliquée. Du coup, on a eu un vieux truc d'hésitation là. On s'est dit, mais Kaamelott est plus fort que le Covid-19. Et malheureusement, pas encore. Béa, tes références.
Donc, je vais pas redire ce que vous avez dit, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit.
Clerks.
Non.
La ville avant les vaches.
Mais la suite de Clerks, c'est un vrai film d'aventure, mais c'est pas dans les années 80.
C'est pas rien à voir avec Clerks. Bon, je rajouterai. La fille qui veut pas discuter, quoi.
ouais, de bien bon, senti, j'ai pas voilà. insisté.
Non, alors je sais pas, c'est un peu limite aussi, mais Highlander, moi je le mettrais quand même dedans. Parce que ça reste. Enfin, alors. Il a sûrement bien vieilli, mais c'est pas grave.
Non.
Oui, mais c'est pas grave. Ça reste quelque chose, un film que j'aime vraiment beaucoup. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais Le Secret de la Pyramide de Barry Levinson, je le trouve vraiment très chouette. On dirait un pré Harry Potter. Et ouais, c'est vraiment très très bien.
J'ai vraiment foncé dessus, vous m'avez
donné. Le secret de la pyramide,
ouais, il faut le voir.
Et en fait, alors c'est produit par Spielberg. Enfin, clairement, l'équipe, elle est très bien, de tous ceux qui sont sur le papier et autour de ça. Et donc, c'est complètement imaginé la rencontre en fait de Watson et Sherlock Holmes à l'âge des enfants en fait. Ce qui n'est pas arrivé dans l'œuvre de Conan Doyle. Mais et donc il y a une aventure justement autour de ça à cet âge-là. Donc vraiment c'est vraiment très chouette et effectivement vous qui aimez Harry Potter, je pense que c'est un film qui pourrait vous plaire. J'ai envie de mettre Dark Crystal histoire de mettre un film dont je parle tout le temps. Mais oui, je vais mettre Dark Crystal.
On aura dans It Is Fantastique évidemment.
Bien sûr, j'espère bien.
Moi j'y avais pensé aussi je préfère la série en fait qui vient de faire sur Netflix. Je trouve que Dark Crystal,
elle est bien,
vachement bien.
Ouais.
Et je trouve que apparemment Dark Crystal,
c'est bien. Ça y est, il a parlé de série, l'enfoiré, il a réussi.
Je trouve que le film a fait pas le figure par rapport à la série maintenant, du coup.
Ça m'étonnerait beaucoup.
Mais elle est arrogante vraiment là en cette fin d'émission.
Et enfin, c'est absolument pas une. Alors c'est pas un film référence et tout, mais juste je voudrais qu'on mette un français parce que finalement on parle que du cinéma américain.
Général de Gaulle.
Et du coup
l'ours.
Non, je voudrais
les
mettre
Orcs gardiens.
Non, l'Africain de Philippe de Broca, juste parce que Philippe de Broca c'est un réalisateur
qui
a fait énormément. Mais pas du tout. C'est avec Catherine Deneuve et avec Philippe Noiret si je me trompe pas. Et voilà, Philippe de Broca c'est quand même un mec qui a fait L'Homme de Rio, qui a inspiré d'ailleurs Zemeckis, a dit qu'il avait été inspiré de L'Homme de Rio beaucoup plus que par Indiana Jones.
Tout à fait. Hein.
Donc, c'est le seul nom, j'ai oublié de le citer au début dans les noms des réalisateurs parce qu'il était décalé par rapport aux autres sur mes notes. Mais Philippe de Broca, évidemment qu'il faut en parler dans cette émission.
Bien sûr.
Oh, c'est mon émission ou quoi?
Tu dis pas que des choses idiotes, Béa.
Non, mais voilà. Donc,
tu regardes L'Homme de Rio, c'est Indiana Jones. La suite, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, c'est très inspiré de Tintin, mais c'est du Indiana Jones
mais c'est
avant
pour ça que Zemeckis a dit qu'il avait été très inspiré par L'Homme de Rio quand on lui reprochait de s'être inspiré à fond d'Indiana Jones. Lui, il répondait, non, en fait, moi, c'est Philippe de Broca, 64, L'Homme de Rio. Enfin bref, tout ça pour dire, l'Africain, c'est bien. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de revoir d'autres films de Philippe de Broca, ça reste plaisant dans le genre un peu épique. Et c'est rare que les Français sachent, je trouve, faire ce genre de choses. Donc voilà.
Magnifique, c'est génial.
Moi, l'Africain, je l'avais eu au Time's Up et c'est toujours hyper compliqué de faire deviner sans être raciste.
C'est pas possible. Oh là 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 là.
C'est pas faux. Mais bon, hein, dans la vie, il faut faire preuve de tolérance, n'est-ce pas?
Bah hein? Alors, est-ce qu'on va être tolérant pour la chronique qui suit? C'est ça la question.
Bah ouais, mais c'était
ah, pardon.
Tu viens de me la niquer, mais bon, c'est ça aussi, au bout d'un moment.
Non, mais moi.
Attends, j'ai une réclamation parce que mon jeu est déjà nul. Alors, si les transitions sont en plus.
Bon, bah, j'en avais une autre dans la tête dans mon réservoir à transition. David parlait de faire pâle figure, et ben on va voir tout de suite un autre exemple de pâle figure avec le pilule bleu, pilule rouge d'Antoine.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
Eh ben Antoine, je suis usé de cette émission, je suis un petit peu comme Indiana Jones qui a creusé avec sa bêche, qui a trouvé son trésor et qui n'en peut plus. J'ai le moral dans les chaussettes, Antoine, c'est le moment pour toi de me divertir et de nous divertir et de divertir la France.
Hé hey, les amis.
Merde.
Les amis, venez voir ce que j'ai
la
trouvé.
La tête de Tristan, ah. Toujours. Ah, j'adore.
Désolé.
J'ai trouvé ça dans le grenier de mon grand-père. C'est la carte trésor de Mac Péloche, le grand pirate des ondes sonores.
Je connaissais
pas. Il avait
pas.
Écrit la même chose pour l'épisode 9. D'accord.
Lui, copie-colle, ouais.
Regardez, il y a un texte. Peut-être que si on le lit à haute voix... Wow. Oh mon dieu, la carte s'illumine! Oui, je suis le fantôme de la carte!
Ça, c'est la voix de Mac Péloche?
Ça paraît très bien le diamant vert tout de suite. Hein.
Vous avez trouvé ma carte et si vous voulez mon trésor, vous devrez écouter ce
c'est
poème.
C'est Rocky, non?
Ouh!
Mac Péloche dans une grotte à cacher, tous ensemble, à un jeu vous jouerez. Pilule bleue, pilule
mais
rouge,
j'adore
Boyard.
Ouais, c'est Père Fouras.
Pas mettre Péloche, c'est le Père Fouras, ça.
De film, boule.
Ah, voilà.
J'ouvrirons la voie. L'un est de sable et d'hommes malsains, l'autre est plein de magie et de nains. Des jeux de mots vous devrez reconstituer pour trouver le coffre de ce passionné de ciné.
C'est Willow?
C'est Willow et Dune.
Et Dune, ok.
Alors, comme d'habitude, Tristan, oui, j'ai pris mes références.
Non, ça va. Voilà. Pas de problème.
Il anticipe maintenant. Comme Béa, elle anticipe mes transitions.
Alors, pour rappel, le petit synopsis de Dune, c'est un empereur décide d'exterminer des paysans des sables et il y a un petit jeune qui va aller lui péter sa race.
Ok.
Et Willow, c'est un nain qui devient assistante maternelle.
Ah, putain. Alors qu'il a pas son bac plus 2 de... Ah, là, je sais plus le nom de...
Il a pas passé les études.
Il l'a pas eu. Il est pas éducateur spé. Hein.
Alors, un empereur extermine des paysans des sables. Une famille de japonais survivant grâce au vol à l'étalage fera tout ce qui lui est en pouvoir pour s'en sortir.
D'une affaire de famille.
D'une affaire de famille. D'une affaire de famille. Très bonne réponse de Thomas.
Et Béa aussi.
Et de Béa aussi.
Mais j'ai l'avantage de la
ouais, c'est ça.
Exactement. Alors, c'est un nain qui devient assistante maternelle pour Macaulay Culkin durant le tournage d'un film au nom américain.
Willow Malone.
Le nom est américain. Willow
Malone.
La bonne réponse de Tristan.
C'est pour lui, ça.
Un empereur
qui prend les titres américains, t'en peux plus, c'est vraiment, t'es une blague, mec.
Après, à sa décharge, hein, je vais défendre Antoine, c'est peut-être la première histoire de Parlons Péloche. On est proche de 80 émissions, là, quand même. On commence à avoir fait le tour de la connerie, comme on dit.
Un empereur extermine des paysans des sables. Seulement un jeune voleur et son singe.
À la dune.
Carrons ses plans.
Ah oui, à la dune.
À la dune, grâce à une lampe magique. Très bonne réponse. C'est un nain qui devient assistante maternelle au MIT et qui décide d'aider un Matt Damon fort en maths.
Willow Hunting.
Good Willow Hunting. Willow Hunting. Très bonne réponse de Tristan.
Eh ouais, alors là, t'as gagné, mais tu dis pas que ça marche pas vraiment.
Allez, si, si, ça marche bien.
Ça marche super bien. Willow Hunting et Willow Hunting. Bah. Ça
va faire
trop bien.
Un ralenti radio pour regarder.
C'est un nain qui devient assistante maternelle d'un bébé orque de 200 kilos.
Sauvez Willow. Sauvez Willow.
Sauvez Willow.
Sauvez Willow.
Ouais, t'es parti sur Willow.
Je sais pas, je vois le nain sauter là.
C'est un empereur qui extermine des paysans des sables. Seulement Jim Carrey et Jeff Daniel en éleveur de lombrics.
Don et Dumber.
Dune et Dumber.
Dune et Dumber.
Plus.
Oui, bon, allez.
Ah, ils sont bien.
Oh, bravo.
Ah bah voilà.
Vous avez trouvé le jeu de mots. Et voilà le plus grand trésor du capitaine MacPeloche.
Ah.
C'est l'amitié.
Le trésor nul.
On l'avait dans notre cœur depuis le début.
Ah, ça fait combien, Clochette?
J'étais avec vous.
Oh, on est sur du Animal Crossing.
Oh, c'est à peu près 2 800 000 clochettes.
Okay.
Alors, ce qui est pas mal.
C'est
hein,
le prix du sous-sol, hein, donc ouais.
C'est le prix du sous-sol. On va résumer l'émission tous ensemble. On s'est bien amusé avec le jeu d'Antoine. On a annoncé que Reparlons Péloche 90. On a fait un setup un peu nouveau et je me suis cassé la gueule en trottinette. Est-ce que on a fait le tour? Je pense que oui. Est-ce que vous voulez continuer à nous écouter? Je pense que si vous en êtes arrivé là, parce qu'on est à quasi à 2 heures d'émission, c'est que vous nous aimez. Et ben, ça fait plaisir à toi qui es là à la fin. On va mettre un petit générique de fin comme il est coutume de faire. Mais avant ça, on vous propose de nous suivre évidemment sur les réseaux classiques, à savoir Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, et vous pouvez également nous suivre sur les applis de podcast, à savoir Podcast Addict, Spotify, Deezer, iTunes évidemment, Castbox, j'en passe et des meilleurs. Alors, est-ce que allez Béa, t'as pas un truc à dire, toi, comme ça?
J'espère qu'on pourra bientôt se rechoper dans les salles obscures.
Et ben voilà, au revoir.
Au revoir.
Salut.
Tu peux descendre, Laurie.
Il va libérer sa femme.
C'est bon, tu peux descendre.
J'appuie sur le rouge ou sur le home? David? Celui-là? Le rouge? J'appuie sur le rouge? Bon, j'appuie sur... Ah oui, l'arrêt, ok. Oui, ça, en fait, ça paraît logique. Ah, j'y con, quel boulet.
Voilà, c'est... Juste pour remettre l'église au milieu. On l'a, mais où l'église? Au milieu du...
Village.
Genre pour mener l'émission, ça ira. Ou est-ce que vous voulez que je parle comme ça? Que j'hurle? Non? Bon. Bah là, je suis avec 8 distances. Hein. Je peux me rapprocher encore. Hein. Bon là, on n'est plus du tout dans la distanciation sociale, mais... Vous m'entendez mieux? Bon bah vive la France, on peut faire l'émission comme ça. Allez. Je t'ai pas fait de café, Antoine.
Ok, rec.
En vrai, on est plus à 5 minutes, hein, si t'as besoin d'un café, Antoine.
Franchement, on prend un café.
Parce que moi, par exemple, je prends un café.
Putain,
t'es beaucoup trop gentil, Thomas.
Du coup...
Bon bah, du coup, j'ai le droit à un café.
Je me suis rendu compte de la valeur de l'amitié, Vincent. Non, mais l'eau, elle est prête.
Oh, on laisse.
Oui. Ouais, tant pis.
Alors, après, moi, c'est du vrai café. Hein. Enfin, moi, je dis ça, c'est pas un café lyophilisé comme chez Thomas, mais bon.
Ouais.
Je préfère être à distance. Hein.
Oh, le bitching.
T'as moulé tes grains, mais hop.
Il y a un café pour la jolie dame.
Merci.
C'est pas très chaud.
Est-ce que t'as moulé tes grains, Béa?
La valeur de l'amitié
n'est pas... Non, je n'ai pas...
C'était quoi le bitching? Parce que moi, j'enregistre, je vais tout entendre. Hein.
Ouais, Béa a fustigé ton café Eco Plus.
Bah oui, bah oui, oui.
Elle m'avait dit que elle, c'est du vrai grain et
non,
toi,
c'est
ah, mais ça,
café,
c'est la différence entre une femme raffinée.
Oui, du vrai café.
Bon. On est parti, les amis?
Bah écoute.
Alors, 3, 2, 1. Bien.
C'était un clap.